Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 31e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle
peut.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 avril 2006, jour de la Saint-Anselme. Bonne fête à tous les Anselmes.
Si vous en connaissez.
Ou bonne fête à lui, je sais pas s'il y en a beaucoup.
Et bonne fête à Anselme et Gretel.
Oh. Et, ouais, hier c'était la Saint...
Odette.
Et mardi c'était la Saint-Parfait.
Et ouais, on
pour,
s'en fout.
Pour les... Mais non, enfin, non, c'est ouais. Très important parce que pour les fans de Quoique, on a fait une émission il y a 2 ans, le jour de la Saint-Parfait.
Tu te souviens du numéro de l'émission ?
Oui, c'était le jour de la Saint-Parfait. Voilà. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est la société de consommation, sujet qui sera traité de main de maître et d'experte par Béa.
Oh oui.
N'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? Rien préparé, hein.
Bien. Faut pas le dire.
Oh si.
Non, parce que des fois ça se voit pas à la fin finalement. Enfin, ça s'entend pas.
Alors avec nous ce soir, comme d'habitude, je dirais heureusement, elle meuble beaucoup l'espace tout court.
De son appartement. Donc.
Voilà, Flo.
Ben, je m'occupe là, je mange l'espace de mon appartement.
Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé pour une fois qu'elle parlait pas. Donc Flo, qui, elle, nous fera une chroniquette aujourd'hui sur le dernier film d'un certain Dupontel.
Ouais, allez Albert, c'est bien.
Voilà. Ensuite, donc Béa nous fera le sujet de l'émission, gigantesque, énorme, sur la société de consommation.
Oui, on aura certainement des choses à dire.
Oui.
On va trouver.
Oui, il y a un plan et tout va bien.
Oui. Ouais.
Après, Numa nous fera un poème qu'il est en train d'écrire.
Non, là il a l'angoisse de la passe blanche là.
Ouais, il l'écrit pas. Et puis ça
la
sera...
pression là.
Ça va, il a pris une feuille qui est pas trop grande.
Bah, j'espère que tu seras pas trop inspiré parce que là sur le post-it.
Je fais attention.
D'accord, merci.
De rien.
Ensuite, on prendra qui ? Eh ben Ariane.
Qui... Toi si tu veux.
Oui, mais ça dépend des jours.
Parce que c'est vrai, toi t'es toujours dispensé de chronique finalement.
Ben non, mais c'est parce que moi je suis à la technique, à la présentation, vous vous rendez pas compte.
Oui, il faut rien.
Non, la technique c'est Michel.
Mais moi vous remarquerez que je me présente pas, personne me présente.
Oh, et avec nous ce soir, on te présente comment ? David,
à mon avis,
ton verre.
David, ton verre.
Il attend un truc du genre, le grand, l'ineffable, l'inénarrable, celui dont on ne parle plus, c'est David.
D'accord.
Ouais, un truc dans ce genre-là, quoi. Humble et modeste, comme moi.
Ben voyons.
Donc Ariane qui nous fera un petit quiz sur la publicité. Ça part bien dans le live, oui, n'est-ce pas ?
Il se crache de la vache qui rit à la figure.
Non,
on
mange des olives.
On n'a pas le droit de dire la marque. Il ne faut pas dire vache qui rit.
Et on finira par... J'ai parlé de tout le monde.
Ouais.
Voilà.
Parce qu'on n'est que 5.
Voilà.
Pas la marque.
On n'est que 5. Parce que Darty et Valérie sont pas là.
C'est soir, oui. C'est vrai, c'est
par contre, on a bien remarqué qu'Ariane et Numa étaient là et qu'ils avaient une conversation passionnante.
C'est la consommation.
Il est en train de dire, consommation. Il me dit qu'on ne cite pas de marque et vache qui rit, c'est le nom d'un produit, c'est pas le nom d'une marque.
Non, c'est de la crème de gruyère.
C'est une marque.
Ça n'a pas commencé. Stop, c'est parti. Bon, Béa, à toi. Si tu veux faire des interviews spéciales, marques, produits, ne te prive pas.
Oui, non, vas-y, Béa.
On te laisse la boutique. Nous, on va aller faire un peu de PlayStation à côté.
Pas.
Non, PlayStation, on n'a pas le droit de le dire. Ah.
Non, on n'a pas le droit. Parce que, donc oui, on va parler de la société de consommation, les Français et la consommation. Alors, en gros, le plan petit 1, avantage. Petit 2, inconvénient. Je pense qu'on aura plus de choses à dire sur les inconvénients.
Synthèse, quoi.
Sur les inconvénients, sur les travers.
Il n'y a pas de grand B.
Grand A, grand B, si tu veux.
On peut remplacer si on veut.
Voilà.
Merci.
On peut. Je ne sais pas si ça va beaucoup nous aider.
C'est important.
Mais on peut. Donc, oui, la France est une société de consommation par définition. C'est un pays dit riche, dit industrialisé, dit avancé. Ça, c'est encore pire. Donc,
Développé.
On se demande quelquefois pourquoi, mais...
Enveloppé.
Ça, c'est certains Français, ça. Et Françaises.
Aussi. Alors, les enfants, surtout.
La parité.
Et pour moi, société de consommation, ça veut même plus dire consommer des biens de grande nécessité, c'est-à-dire se loger, se nourrir, s'habiller. Maintenant, société de consommation, ça veut bien dire consommer des choses qu'on nous force à consommer en nous faisant en plus croire que c'est indispensable.
On nous force pas, on nous incite fortement.
On nous incite. Mais moi, je me rends compte que oui. Je suis complètement dans la société de consommation. J'aime consommer, j'aime dépenser. Bah évidemment, ça va intéresser que les gens qui ont un peu d'argent.
Tous dit, il faut faire fonctionner la croissance, alors il faut consommer. Hein.
Tout à fait. Ça, c'est un des travers. On va peut-être faire un tour de table pour voir s'il y en a qui voient des avantages à ces sociétés de consommation. Moi, j'en vois quelques-uns. Je dis, moi, j'aime bien acheter. Ça fait plaisir, même si ce sont des choses futiles. Je trouve aussi très pratique.
Il faut aimer jeter aussi. Moment,
c'est un des travers.
Pas aimer, tout savoir. Savoir jeter.
Oui, c'est encore un travers. Justement, on nous pousse à consommer, mais après, on ne sait pas quoi en faire. Mais donc, bon, quelques avantages. Moi, je trouve pratique d'avoir tout sous la main. À partir du moment où on a de l'argent, hein, c'est toujours pareil. Je dis, ça va intéresser que les gens qui ont un minimum d'argent qui peuvent acheter. Moi, j'aime bien, effectivement, avoir tout sous la main. Moi, j'ai vécu à la campagne, enfin, au bord de mer. Si je suis venue en ville, c'est pas un hasard, c'est avoir tout à portée de main. T'as faim, tu vas manger à n'importe quelle heure, surtout à Paris. Avoir tout.
Il n'y a pas tout à Plouesquet.
Ah, pas vraiment. Maintenant, il y a un distributeur de DVD, hein, mais ça fait pas longtemps. Non, à Plouesquet, donc petite bourgade de 3500 habitants au bord de la mer en Bretagne, les activités, finalement, les loisirs, les passe-temps sont gratuits. Aller à la plage est encore gratuit, se baigner est encore gratuit, en tout cas chez nous. Alors qu'effectivement, la ville représente la société de consommation. Quoi que tu fasses, tu dépenseras un euro minimum.
Parce que je sais pas si tu fasses le prix du matelas sur une plage privée à Nice ou à Cannes, bonjour quoi.
Nous, on n'a pas ça en Bretagne. Mais c'est pas la peine de venir, hein.
Ouais,
c'est pas
mais
beau.
Là-bas, c'est des galets, c'est pour ça que tu es obligé de prendre un matelas.
Ah non, non, il n'y a pas que des galets, il y a aussi des plages de sable.
Ouais, en Bretagne
ouais. Non,
bah oui,
en Côte d'Azur.
Sur la
Bretagne,
Côte d'Azur, il y a
en Bretagne,
plages,
il n'y a que
Vendoux,
du sable.
Pour ceux qui connaissent.
En Bretagne, il n'y a que du sable. Et du sable blanc et fin. Mais bon, c'est pas une émission sur la Bretagne.
Ça inspire pas Numa, il a toujours rien écrit.
On aurait pu faire une émission sur la Bretagne.
Non, non, mais c'est pas vrai. En ville, on peut faire des choses gratis. Tu peux réussir à te caler les fesses dans un parc et à trouver des pipi-rooms sans avoir à payer, c'est faisable.
Est-ce
mais
que
il
dans
faut
ces pipi-rooms sont propres avec du PQ?
Ouais, si, si. Il y en a à Montparnasse et on a mis 5 ans à les trouver.
D'accord.
C'est quand on a découvert que tout le monde allait au même endroit qu'on s'est dit qu'on allait voir ce que c'était. Et en fait, 5 ans après, nous avons découvert qu'il n'y avait pas besoin d'aller pipi-rooms qui payent.
Et mater les nanas, c'est gratuit.
Effectivement, ça me fait penser à une chose. Il existe maintenant dans les grandes villes des guides qui s'appellent « Comment vivre moins cher » ou des choses comme ça et qui te donnent un tas de trucs et d'astuces justement pour payer...
Mais payer.
Pour payer moins cher. Ou pour avoir des choses gratuites.
Ah, voilà. Parce qu'on connaît le pari pas cher, c'est pas si
c'est
moins
pas
cher
toujours pas
que
très
ça.
Cher, ouais.
Mais on connaît celui-là. Non, en ville... À part se promener pour regarder une ville magnifique comme Paris, par exemple, ça peut être gratuit, mais toutes les tentations sont là. Et elles sont faites justement pour ça. Donc passons tout de suite au travers de la consommation. Effectivement, moi, ce qui m'agace le plus, c'est la pression du consommateur, disait Numa. On nous force à consommer. Parce qu'en plus, on veut nous culpabiliser en faisant croire que si on... On nous force maintenant, parce qu'on nous fait croire, parce que c'est pas vrai, que si on ne consomme pas, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance, le pays va mal. Si le pays va mal, les gens vont mal.
C'est un peu comme la masturbation, ça rend sourd.
Mais de toute façon, au bout d'un moment, la croissance, on l'aura dans le cul.
Mais la masturbation...
Mais de toute façon, dans un pays déjà développé, on aura difficilement une croissance... par rapport à des pays qui se développent, sur notre modèle.
Non, mais il suffit de réfléchir 2 secondes, une croissance infinie, ça n'existe pas. Donc, au bout d'un moment, ça se pète la gueule.
On peut pas mettre 2 litres d'eau dans une bouteille d'1,5 litre.
Voilà.
Voilà. Donc, voilà. Bon, on sait pas quand.
Mais
c'est tout.
Je trouve quand même que depuis quelques années, ça s'accentue. on veut quand même encore nous le faire croire, on nous force à consommer, on nous en donne pas les moyens, on nous force à consommer. Et moi, ce qui m'agace le plus...
Et Bernard Kouchner disait notamment, à propos des énergies, que le fait de vouloir que le pétrole, et notamment l'essence à la pompe, ait un prix constant, c'est de la fumisterie, et qu'il faudrait... Ça, oui, mais et que justement c'est la volonté actuellement du ministre, je sais plus lequel, alors que de l'industrie, ouais, alors que en fait, ce qu'il faudrait, c'est que justement ça soit répercuté, parce que là, on va avoir un truc constant et au bout d'un moment, ça va monter en flèche et là, on aura un crack.
Ouais, mais les prix sont libres maintenant à la pompe. Hein.
Il s'efforce toujours d'essayer de les maintenir. Pour éviter justement qu'il y ait une augmentation donc de 10-15% par an. Mais au bout d'un moment, on va l'avoir l'augmentation. On aura tout d'un coup.
On va l'avoir dans le cul. Quoi.
Oui, parce qu'on l'aura, on aura tout d'un coup.
L'essence, elle augmente. Hein,
Rien du tout.
On n'a plus de voiture, donc on est vraiment complètement détaché de ça.
Non, mais quand je dis qu'elle augmente pas, c'est-à-dire qu'elle augmente pas du tout en rapport avec ce qu'elle devrait augmenter. Parce que ils essayent quand même de maintenir, ce qui est totalement absurde, de maintenir
aussi l'inflation. On en revient toujours au même, ça fait partie des sociétés de consommation. Faut maîtriser l'inflation, faut que ça augmente, mais pas trop. Parce que les gens doivent consommer, ça fait partie de la croissance, mais les tarifs augmentent aussi.
Et puis de toute façon,
par une règle de la nature qui n'a pas du tout été faite par les hommes. C'est ce qu'on a l'impression que c'est fait. C'est une règle de la nature, la croissance, la consommation, l'économie. Maintenant, l'homme ne peut rien faire. Il subit. C'est-à-dire que tous ces types-là qui sont censés nous gouverner, maîtriser toutes ces choses-là, ils font plus rien. Ils disent, maintenant il y a la croissance, il faut faire ça. Vous vous rendez compte, la mondialisation, les autres ailleurs, ceci, comme si c'était pas eux qui avaient fait cette merde.
Voilà.
Mais justement, il y a pire, hein, quand même.
Il y a pire, mais c'est vrai que...
Il y a un moment aussi, il faudrait peut-être réagir.
T'as dit un truc qui est intéressant, c'est le « ils font plus rien ». Et justement, société de consommation, ça consomme de plus en plus, et dans tous les sens. Moi, je vois là où je suis, il y a régulièrement des gens qui viennent faire des recherches. Et là, c'est pareil. J'arrive, il y a une nana qui travaille sur l'évolution de la femme musulmane. Elle ne sait rien, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle vient dans un endroit où c'est bourré de films, et donc il faut lui faire ses recherches, lui chercher les films qui pourraient l'intéresser, voire même si on pouvait lui écrire son sujet et lui rédiger sa thèse, ça serait pas plus mal, quoi. Et plus ça va, pire c'est. Les gens arrivent, c'est tellement habitué à donner
un peu
d'argent.
Je trouve que ce n'est pas le problème de la consommation, c'est le problème de l'irresponsabilisation et de l'infantilisation de nos citoyens.
Je trouve que c'est pas tout à fait. C'est un côté consommation. Écoute, t'arrives, tu paies, pof, t'as
tout
qui arrive.
Voilà.
Et là, c'est pareil.
Il y a ce côté-là, tu consommes, tu payes, donc t'as bien le droit.
Mais voilà, elle arrive, elle paie, enfin, elle paie
mais
même pas, c'est
limite,
sa femme qui paie pour elle, et hop, paf,
à
tout
la limite,
arriver.
Moi, je le mettrais plus dans les avantages de la consommation, et toujours, je le répète, ça fait 3 fois, à partir du moment où on a de l'argent. Moi, je dis effectivement, moi, mon argent, je le dépense un peu comme ça. J'ai pas envie de me faire chier. Moi, j'utilise des services.
Ouais, mais
c'est un peu
emmerdant. On parle de quelqu'un qui est en train de rédiger une thèse, quoi. Merde.
Bah, je vois pas le rapport. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas le droit? Alors, ce que je voulais dire, moi, sur la pression du consommateur, ce qui m'agace le plus depuis un moment, c'est que donc, on le force à consommer. Enfin, on le culpabilise s'il ne consomme pas. Mais s'il consomme, on le culpabilise aussi de plein d'autres côtés. Il se retrouve toujours en plein milieu de conflits d'intérêts. Par exemple... Il doit consommer, mais bien. Par exemple, il faut aller consommer chez le petit commerçant, parce qu'il faut aider le petit commerçant, il a du mal le petit commerçant. Donc du coup, on va payer 2 fois plus cher son kilo de riz que si on va chez Leclerc.
Oh,
épouvantable, Leclerc, Carrefour, des méchants. N'empêche que le consommateur, il paye moins cher chez Carrefour. Après, on ne sait pas comment, et effectivement, si on gratte un peu, on va trouver des choses pas très jolies, pour le fait qu'on paye moins cher. Mais non, on va pas non plus aller payer 3 fois plus cher son morceau de fromage pour défendre les petits commerçants. Ou alors, tu l'as dit...
S'il est meilleur.
S'il est meilleur, oui, c'est
ça. Mais il n'est pas forcément meilleur.
Pas forcément,
mais
il y en a où il est meilleur.
Et après, au petit commerçant,
c'est
démerdé.
Ton morceau de fromage, si tu vas le chercher chez le fromager, il y a quand même des chances pour qu'il soit meilleur. Voilà. En revanche, ton morceau de fromage, si tu vas le chercher dans un truc épicerie juste à côté, en bas de chez toi, qui ne fait pas que du fromage et qui vend tout un tas de trucs, effectivement, il n'est pas, pas forcément meilleur.
Mais le fromage au rayon fromagerie des grandes surfaces, il est très bien. Je défie quiconque de faire un test à l'aveugle et de reconnaître un fromage de fromager et un fromage de crèmerie et un fromage de crèmerie.
Ça dépend des régions parce qu'effectivement, les grandes surfaces s'approvisionnent pour certaines choses dans la région où ils sont implantés, et effectivement tu vas aller trouver un truc qui vient de chez le producteur d'à côté, mais pas forcément dans la même enseigne à 800 km de là. Voilà.
Alors on rejoint effectivement un deuxième conflit d'intérêts, c'est de bouffer bio. Alors il faut, ouais, faut manger, mais c'est mieux de bouffer bio.
Ce que t'as dans la main, c'est bio ?
Ouais, carrément. Petit producteur de Bourgogne à Ligoté. il faut manger bio, ou alors le commerce équitable. Moi, par contre, je trouve ça très bien, le commerce équitable. Seulement, on ne le trouve pas partout. Il y a toujours cette notion de pratique. Moi, je trouve que la consommation nous a fait faire des progrès dans notre confort de vie. Les choses sont pratiques. Effectivement, moi, je fais mes courses en 10 minutes top chrono.
Pratique, pour la semaine, pratique. Je ne sais pas si tu as essayé, mais sur... 10 trucs qu'on te vend avec ouverture facile en général, soit tu n'y arrives
je
pas.
Je devrais faire une thèse sur les ouvertures faciles, j'adore
soit
ça.
Soit tu n'y
parce
arrives
pas,
soit tu en fous de partout.
C'est vrai que ça marche.
Donc
pas.
Donc ça, ça n'est pas un gain de temps. C'est pas
alors,
vrai. Donc effectivement,
rejoint.
on te le vend comme quelque chose de plus pratique et comme un gain de temps. Donc effectivement, on te fait consommer. Tu vas acheter celui-ci plutôt qu'un autre parce que c'est une ouverture facile ou parce que c'est plus rapide. Et en fin de compte, soit tu salopes ta cuisine en ouvrant un truc et il faut que tu nettoies derrière, donc tu perds du temps. Soit tu n'arrives pas à l'ouvrir, tu finis avec une paire de ciseaux et en général, tu t'énerves parce que tu cherches ta paire de ciseaux.
Oui, et puis en plus,
ça,
tu accuses.
Vous êtes pas douées, les filles.
Non, tu accuses le paquet d'ouverture facile parce qu'en plus, tu l'as acheté plus cher à cause du packaging.
Tu peux
donc,
parler
et à cause de l'ouverture facile.
On rejoint un troisième conflit d'intérêts, il faut consommer, d'accord, mais il faut consommer écolo. Ah parce que là, on s'en prend plein la gueule. Tu te fais franchement culpabiliser si tu tries pas tes déchets. D'un autre côté, moi tu reviens, je suis toute seule, je reviens de mes courses pour une semaine, je remplis ma poubelle de 10 litres d'emballage. Et pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on va te dire, bah oui, mais c'est pas bien. T'as trop d'emballage, donc il faut aller acheter là où on te donne qu'un pauvre petit sac pour ton kilo de riz. Oui, mais c'est pas le kilo de riz qui prend de la place, ou qui a un emballage qui prend de la place. C'est tout ce qui est fait d'un côté parce que c'est pratique, et de toute façon, d'un autre côté, parce que t'as pas le choix d'acheter des trucs qui sont méga emballés.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on emballe beaucoup plus maintenant qu'il y a 100 ans.
Ben moi. Mais moi je vois tout simplement par exemple tu regardes les tubes dentifrice, t'as ton tube et puis autour t'as une boîte en carton.
Non,
alors
en carton
que
est inutile.
Voilà. Alors qu'il y a 100 ans tu te l'avais pas
oui,
mis.
Oui mais
dedans.
Tu n'as pas le choix.
Non,
tu dois acheter du dentifrice.
C'est pas vrai. Moi j'achète le Signal qui n'a pas de
mais
carton.
Mais je n'aime
autour.
Pas le Signal.
Non, mais
je préfère l'Aquafresh qui est moins cher, qui a meilleur goût.
Mais il y en a très peu qui ont pas de.
C'est pas grave, si on en sait 3 on a le droit.
Non mais on va pas dire qu'il y en a pas, mais il y en a très peu où ça n'existe pas.
Pour la troisième.
Et donc il y a plein de trucs comme ça, la crème je sais pas quoi là qu'on a pris c'était pareil, t'as le petit pot de crème puis autour t'as une petite boîte en carton pour mettre ton petit pot dedans.
Voilà.
Et donc t'as tarif chez toi et tu prends la boîte en carton puis hop tu la jettes.
Moi je voudrais
et donc qu'on... elle n'a aucune utilité mis à part te faire acheter.
Voilà, mais moi je voudrais qu'on se rende compte que ce n'est pas au consommateur de devoir faire attention à ça. C'est de l'hypocrisie totale. C'est pas le consommateur qui va décider ou pas d'acheter le truc le plus emballé ou le moins emballé. C'est pas vrai.
Et encore,
il faut demander de faire moins de packaging.
T'as pas vu les emballages quand ça arrive au supermarché.
Un petit peu d'éducation au niveau du consommateur, mais c'est sûr, on en revient toujours au même. C'est que tous ces déchets, tout ça, ça vient pas de nulle part. C'est pas non plus une règle de la nature. Il faut pas 18 cartons pour emballer un
truc.
Mmh. Donc ça peut d'abord être changé. Au niveau des industriels, au niveau et l'État qui pourrait être censé un peu gérer tout ce qui se passe dans
un pays.
Mais
bien sûr, et là
le faire,
c'est
notamment
une vaste...
oui mais vous rendez compte, ça va mettre des gens au chômage.
Voilà,
ça va faire
et
ceci,
c'est une vaste hypocrisie
cela.
Parce que le packaging, c'est de la force de vente. Évidemment qu'il sert à faire consommer, parce qu'il y a des tas de produits qui existent depuis la nuit des temps. Tout à l'heure, tu nous parleras de la pub, mais c'est vrai que la pub, c'est ce qu'elle relate. Maintenant, il n'y a plus de réclame. Où on nous vend un produit qu'on ne connaissait pas. Maintenant, il y a très peu de nouveaux produits. Si le produit existe déjà depuis des lustres, ce qui change, c'est juste son emballage. On a vu ça pendant 30 ans avec les lessives, l'évolution des lessives. Le produit, la molécule de lessive, c'est toujours la même. Ça fait 30 ans, c'est
non,
toujours
mais avant,
la même.
Les lessives, elle
mais
lavait
maintenant,
pas bien, parce que maintenant, elle lave bien. Moi, quand je regarde les pubs, à chaque fois, tu t'aperçois que la lessive
pendant,
d'avant, elle lavait pas.
Pendant 10 ans, ça a été ça. On connaît les sketchs de Coluche. C'est-à-dire que la lessive lave plus blanc que blanc. Maintenant, ils peuvent même plus le dire, parce qu'il serait quoi le t-shirt là, il est transparent là, c'est bon. Maintenant, ça a été la bille, ça a été le gel, ça a été et donc maintenant on en arrive aux pastilles, on en arrive aux pratiques. Et la pratique,
pastilles,
ça veut dire
pour
des
la
pastilles. emballés individuellement, je n'ai jamais compris pourquoi il y en avait deux dans le paquet. Parce que s'il faut en mettre deux, ils peuvent en faire qu'une.
Il n'y en a qu'une ?
Non, il y a deux pastilles dans un paquet. Ça mais pour faire une lessive, tu dois mettre un paquet.
Ça dépend
autant que la pastille soit en entier hein, dans le paquet.
La lessive compris, pour les vêtements, David, pas la lessive pour le lave-vaisselle.
Oui, non, mais je sais.
Ils te font même maintenant des trucs, ils te mettent un emballage autour, t'es même plus obligé de l'enlever.
Parce qu'ils ont peut-être pris justement enfin ce créneau légèrement écolo, mais une fois de plus,
non,
c'est de l'hypocrisie.
Non, c'est pas pour se foutre du produit sur les doigts.
Et que c'est juste un nouveau truc.
Ouais,
il n'y a rien de nouveau.
C'est pas biodégradable ta connerie, alors.
Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on nous l'emballe différemment.
Et attends, parce que là tu parles que des emballages, mais tous les produits jetables qui pourrissent la nature,
ouais.
Type lingettes, ouais, pour laver le sol, les trucs dans ce genre-là.
C'est pratique.
Les sacs plastiques pour mettre les glaçons.
David, tais-toi, j'allais dire que c'était une discussion de filles, la consommation, là, parce qu'avec les filles.
Mais non, les mouchoirs en papier, c'est
les
pareil.
Les mouchoirs en papier.
Là, les mouchoirs
alors
en papier,
c'est vrai
personne, tout le monde les accepte parce que ça fait des lustres que ça existe.
Non, mais c'est vrai que
plus personne n'a de mouchoirs
pratique.
En
moi,
mais c'est vrai
que
l'usage unique est intéressant dans le sens où quand tu te mouches dans un tire-jus pendant deux jours, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
T'as des microbes de la veille, surtout quand t'es enlevé.
Mais
à nettoyer, c'est immonde. À nettoyer, c'est immonde. Parce que je peux te dire que tu les fous pas comme ça dans la machine à laver.
Tu fais une lessive de mouchoirs.
Non, tu les fous pas comme ça dans la machine à laver, justement. C'est comme les cols de chemise. Faut les passer d'abord au savon de Marseille et ensuite dans la machine. Parce que sinon, tout ce qui est.
J'ai pas de mouchoir.
Quand tes crottes de nez, elles ont séché, ça part pas dans la machine à laver.
Alors, il faut mettre les crottes de nez ailleurs que dans le mouchoir.
Et puis, si mon mouchoir il est un petit peu taché.
Le mouchoir, encore, c'est du papier. Donc, c'est pas le pire.
Ouais, mais
et les lingettes.
Ouais, mais c'est des papiers gras, tu peux pas les jeter avec tu peux pas les recycler avec le
papier. Ça peut être en papier recyclé.
Oui, mais on les recycle.
Chez moi, on peut pas.
Non, on
recycle. Il faut pas mettre de papier gras.
Mais n'empêche que c'est beaucoup plus rapidement dégradable. Qu'un sac en plastique ou qu'un emballage de gâteau où chaque gâteau est emballé individuellement, puis par trois dans une barquette de six, puis dans un carton, puis en lot de deux parce qu'il y a une promo. C'est balèze, ça.
Je vais faire une petite pause. On va faire un petit intermède culturel.
Ouais, on va rire un peu.
Je viens de trouver une place pour le Roi Soleil et d'après ce que j'ai cru comprendre, quelqu'un l'a lâchement dénoncé, il s'agirait de Flo.
Non mais c'est un truc je
c'est
peux
pas connaître.
Elle a pas payé,
elle l'a ramassé dans la rue.
Je peux pas me permettre de raconter ça sur Quoique, parce que si un jour une des personnes qui a à voir avec ce truc l'entendait, elle serait assez vexée. Mais enfin c'était quasiment, je dirais, une œuvre sociale, histoire d'éviter un conflit au sein de l'entreprise dans laquelle je bosse. J'ai accepté une place gratuite en disant que j'allais me faire chier pendant 2 heures. Et effectivement, je me suis fait chier pendant 3 heures.
C'est un peu facile.
Et du coup, on a gardé le billet parce que toute personne qui voit ça est assez morte de rire.
Tu vois, elle est bien, elle jette pas le papier.
Ça fait une transition, encore un travers de la consommation, dans le monde de l'art, la musique, le cinéma, et même la littérature.
Les loisirs
la force
en
de
général.
Vente. Oui, les loisirs en général. Force de vente. On nous force à consommer en nous présentant que la même merde tout le temps. Du coup, on n'a plus du tout de choix. C'est intéressant. Alors, il faut chercher. Parce que des produits.
Si la merde est vachement variée, quoi, quand même.
Ouais, on a le choix dans la merde.
Je trouve.
Non, elle est pas variée, elle est nombreuse.
Elle est nombreuse.
Elle est nombreuse.
Oui, pardon,
nombreuse. Mais à force de matraquage, parce que maintenant, la pub à la télé, je l'ai constaté finalement il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a plus de pub pour des produits. Maintenant, les pubs, c'est que des services, téléphonie, informatique, banque, ou de la musique. Enfin, si on peut appeler ça de la musique.
De la bouffe aussi.
C'est un matraquage, ouais,
oh
mais
non,
t'as très peu de produits.
Et ça
sur une page
bien.
De pub de TF1,
ça dépend des horaires.
Tu as 75% de non-produits. C'est-à-dire c'est des services, des banques, donc de téléphonie, ou...
Ça dépend des horaires et des programmes.
Ça dépend des horaires et des programmes. Et des chaînes, tout simplement.
Et des chaînes.
Sur la 6, la plupart de la soirée, dès la fin de l'après-midi, ce ne sont que des pubs pour des albums de musique. Et donc, à force de matraquage, ça marche. Donc, tous les gens qui sortent de la télé-réalité, tous ceux qui font de la variétoche à 2 balles, toutes les comédies musicales.
Ah non, mais moi j'étais impressionnée là, parce que je peux vous dire qu'il y avait, il y avait du monde qui connaissait ces trucs-là. Tout le monde chantait les chansons, c'était impressionnant.
Mais c'est pas si mal que ça.
Ah, c'est épouvantablement naze. Na, 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 c'est naze, ça ressemble à rien du tout. Moi, j'aime pas la danse. Il y avait quelques personnes, il y avait quelques danseurs, de vrais danseurs qui dansaient, que personne n'a applaudi, personne n'a remarqué. Mais alors, en fait, les trois couillons qui étaient là, qui faisaient juste de mettre des costumes.
Oh, mais les beaux.
Alors, il paraît qu'ils font passer Louis XIV pour un type sympa.
Oui, absolument. En Louis XIV,
hein. Il était super sympa, hyper romantique et tout, c'est bien connu.
Tous les danseurs, les mecs qui en ont vraiment chié, qui ont vraiment dansé tous, sont sortis, sont passés totalement inaperçus. Mais alors,
ils travaillent, c'est des employés comme d'autres maintenant. Enfin,
d'obscurs employés.
Ils viennent, ils dansent, à la fin du mois ils touchent leur chèque et puis voilà quoi.
Ouais, mais alors que Louis XIV, qui n'a rien fait c'est quasiment à part se balader avec son casque moche sur la tête et ses jolis bien costumes. Alors ça,
il a fait tous les plateaux télé.
Ah oui, ah pardon.
Bah ouais.
Bah c'est cool, on a raté ça.
Mais ça marche comme ça maintenant. Tu sors un album, si tu veux le vendre, à moins d'avoir son circuit interne. J'ai vu une affiche de Gérard Manset. Je sais pas si vous connaissez le chanteur français Gérard Manset, que personne connaît sa gueule, sauf si tu vas au concert, parce qu'il ne la met jamais, il ne fait jamais évidemment de promo. Il a une discographie déjà incroyable. J'ai vu une affiche pour son dernier album à Paris.
Eh bien, il était sur France Inter hier soir.
Ouais.
Il y a deux radios, quoique, et France Inter.
Moi, ce qui me fatigue un petit peu, c'est que je me rends compte que la radio la plus intéressante, c'est la radio publique.
Oui.
Où ils n'ont pas besoin de justifier à travers des pubs. Et il y a une totale liberté.
Oui, mais il faut bien se dire aussi qu'aujourd'hui...
Parce qu'ils invitent les gens qu'ils ont envie d'inviter.
Exactement.
En fait.
Il faut bien se dire aussi qu'aujourd'hui, la communication passe de plus en plus par le visuel, parce que c'est beaucoup moins fatigant. Donc on fait des affiches, on fait des trucs en couleur. Les gens regardent de plus en plus la télé, lisent de moins en moins les journaux, même s'il y a des images quand même à l'intérieur, écoutent quand même moins la radio. Donc finalement, tout passe par le visuel.
Bah, c'est moins
donc
fatigant.
Si tu ne montres pas ta tronche, y a beaucoup de gens qui te connaissent pas.
Et c'est pour ça que si tu commences dans la chanson, tu fais une émission de télé-réalité et 15 000 émissions derrière, que tu sois sorti gagnant ou pas à la télé, tu vendras des disques, même si c'est de la merde. Alors qu'il y a des tas d'artistes très bien, et on les verra jamais. Donc il faut les connaître par.
Oui, mais ça toujours. Il y a un réseau de connaissances, ou soit c'est le public directement, donc là c'est par l'intermédiaire des émissions style Starac, tout ça. Ou alors après c'est un réseau de connaissances. Il faut rencontrer les bonnes personnes. C'est pas. T'envoies pas ton CV, on te dit ouais, génial, lui il est bien, on le prend. Enfin, ça marche par copinage, par. Donc il faut rentrer dans le milieu, si je puis me permettre.
Oui, ou un méga coup de bol.
Et que ce soit la musique, tous les milieux artistiques.
Le milieu de la musique a vachement changé.
Tu peux avoir le coup de bol, Benjamin Biolay, c'est parti au départ de rien. Il était juste doué.
Oui, mais il y en a plein qui ont du tronc. Dutronc aussi, c'était un coup de bol.
Oui, les années 60 ont fait ça. Les années 60, c'était des gens pas chanteurs, ils ont été pris comme ça, c'était des télécrochets, et puis ils ont fait des carrières souvent fulgurantes. Hein. Il nous en reste quoi? Il nous en reste un. Johnny.
Deux.
Eddie. J'aime bien.
Trois, Dick Rivers.
Si. Non. Il a sorti un nouvel album, d'accord. Il y a des chansons. Chansons très bien, mais en lui, je peux pas.
Il y a des vieilles qui ressortent aussi, regarde Sheila.
J'en connais pas une de Dick Rivers.
Oui, Manson.
Quelqu'un peut me chanter une chanson de Dick Rivers?
Non.
Si t'avais connu la Nice Belle des Anges à moitié.
Ouais, mais c'est une récente.
Nue. Non? Enfin, je sais pas.
Si, c'était il y a quoi, il y a 5 ans?
Bon, d'accord. Non, c'était pas il y a 5 ans. On était gamins.
Ah
on était gamin. Ouais.
Moi, je crois qu'elle faisait plus récente, celle-là.
Ouais, il y a 5 ans.
Pour recentrer un peu, effectivement, sur la consommation, il y a un truc, attention, je vais dire un mot compliqué, qu'on nous apprend en général quand on fait un peu d'économie ou dans les écoles de commerce, on parle souvent de la pyramide de Maslow.
Oula, explique-nous.
Alors, la pyramide de Maslow, c'était un économiste, pour ce dont je me souviens.
Ah, c'était pas un maçon.
Non. Et la pyramide de Maslow, en fait, elle détermine les besoins. Donc en fait, à la base, à l'endroit le plus large, il y a les besoins de première nécessité, c'est-à-dire manger, respirer, dormir. Donc en gros, qui c'est qui ose t'appeler pendant l'émission?
Dis donc, t'as pas éteint ton portable, c'est pas pro ça?
J'ai oublié.
Il va répondre en plus,
c'est
je crois pas.
C'est pas pro, non.
Non, mais surtout c'est consommation,
en plus,
tout
je suis en train
fait.
De dire un truc
ouais,
intéressant.
On continue. On coupe,
et donc, la pyramide de Maslow, c'est boire, manger, respirer, se vêtir, se loger. Ensuite, tu as tout un tas de graduations dans cette fameuse pyramide qui se resserre de plus en plus. Tout le monde voit à quoi ressemble une pyramide, avec tout ce qui est posséder, paraître, tout ce qui est ensuite le superflu. Donc, et j'ai l'impression que cette pyramide, elle a tendance en fait à s'inverser.
Ben moi je pense que oui.
S'inverser, je sais pas exactement, mais en tout cas assez rodée à la base, on va dire. Puis on est en vacances, plutôt.
Je sais pas si elle s'est rôde à la base, mais en tout cas, c'est l'ingi en haut.
Parce que moi, j'en ai vu.
Parce que Aubry se rôde. Enfin, que... comme rôder une moto. Je vais me recoucher dans mon fauteuil.
Pour ne donner que cet exemple, c'est vrai que moi, j'étais dans une école où il m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient habillés avec des vêtements de marque, qui avaient un certain nombre de loisirs, mais on savait par la suite qu'ils passaient la semaine à bouffer des patates. Donc c'est après il faut effectivement on est plus sur une façon de consommer où on fait passer en premier les besoins de première nécessité.
Mais ça fait quelques années que ça s'accentue, c'est énorme.
Que tout est dans l'apparence, on sait très bien.
Pour faire comme les autres. Et d'ailleurs maintenant dans les fringues, je trouve que c'est même plus tellement porter des marques, mais c'est d'en avoir beaucoup. Parce que la mode change tous les deux mois.
Autrefois, on était capable de reconnaître, la condition sociale.
Déborder au niveau du temps.
La condition sociale de quelqu'un à la façon dont il était habillé, sa condition sociale ou ce qu'il faisait, par exemple. On était capable, même chez les ouvriers, par exemple, de distinguer les différentes branches dans lesquelles ils travaillaient à la façon dont ils étaient habillés. Aujourd'hui, tu fais plus la différence.
Non, tu peux encore. Avec un peu d'œil, tu peux reconnaître la qualité des fringues quand même, qui est une étiquette
ouais,
ou pas.
Mais n'empêche, il y a des tas de ménettes qui n'ont pas les moyens et qui sont habillées super fashion. Et que ce soit de la marque ou pas, maintenant, c'est kiff-kiff bourricot. Tu verras pas la différence, à moins que ce soit vraiment du grand luxe. Et elles n'en ont pas les moyens. Elles sont super bien sapées. Moi, je trouve que maintenant,
il y a un paquet de nanettes dans ce quartier-là, ici, qui se prostituent, entre guillemets, si tu veux, c'est je couche, tu me payes le blouson.
Je vais te dire deux choses. Il y en a une déjà pour commencer. Tout à l'heure, on parlait de jeter. En fait, les femmes qui s'habillent à la pointe de la mode, très souvent, elles revendent des dépôts-ventes de luxe. Bah ouais. Donc, il y a des filles qui n'ont pas forcément les moyens, effectivement, de s'offrir des vêtements d'une certaine marque, qui rachètent en seconde main et qui portent la mode de l'an dernier. Voilà. Et un autre truc que j'ai appris d'un ami qui a fait des études de gémologie. Il paraît qu'il y a énormément de femmes. Alors, beaucoup à Paris. Et
dans les grandes
villes. Ça se fait aussi dans les grandes villes. Qui se font offrir des bijoux incroyablement chers par leur mari ou par leurs amants, et pour avoir des liquidités, elles vont revendre les pierres et elles font monter à la place des zircons. Comme ça, elles ont la paix. Non, c'est pas nouveau. Mais elles ont la paix. Elles gardent leurs bijoux et elles ont des liquidités. Elles ont de l'argent pour s'acheter justement des fringues qui sont hors de prix.
Elles couchent pour avoir des liquidités.
Et... oui, c'est ça.
Ah.
C'est pas nouveau.
Non, je sais bien que c'est pas nouveau, mais c'est effectivement une des explications, parce qu'on peut se poser la question à un moment donné.
Non, mais sinon il y a une explication.
Comment
fait-on
pour consommer ?
C'est qu'il y en a des tas qui ne payent pas leur loyer, qui bouffent pas leur faim, qui payent pas la cantine de leur gamin, mais elles sont sapées de la tête aux pieds. Et elles ont 15 000 paires de bottes.
Parce qu'effectivement, on peut se demander à un moment, la consommation, elle a aussi un coût, et on peut se demander comment les gens font pour consommer.
Mais c'est vrai qu'on
mis à part le crédit,
on consomme à mort. C'est vrai qu'on nous incite fortement, et puis on en prend vite l'habitude, tout petit.
On prend l'habitude.
Et c'est aussi un peu le problème français, c'est-à-dire qu'on se plaint, le libéralisme c'est de la merde, la consommation c'est de la merde, et puis après quand on regarde les chiffres, c'est infernal. Le français est un gros consommateur.
Ah oui.
Et qui veut pas l'admettre. Quand on lui pose la question, il dit non. Et même politiquement, il dit non.
À qui autour de cette table il est déjà arrivé qu'il consomme.
Bah oui, il n'est pas déjà arrivé. Dès qu'il est quelqu'un du pognon, il est plus communiste, même s'il le dit.
À qui autour de cette table il est jamais arrivé justement d'acheter quelque chose dont il s'est soit jamais servi, soit qu'il a jamais consommé. Pour les filles, par exemple, d'acheter des fringues en se disant tiens c'est super, et en fait de jamais porter ce qu'on a acheté.
Ouais, moi j'achète des jupes et je les mets jamais.
Et c'est bien dommage.
Mais je m'y fais pas.
Je l'ai vu une fois en jupe.
Oh bah dis donc.
C'était en 1924.
La jupe était encore longue.
À Tanger.
Dis pour notre mariage, tu te mettras en jupe.
Oh, je ferai
des feux.
C'est une parenthèse.
36-15, code ma vie privée, ça va, ouais.
C'est une parenthèse.
Une robe même. Ouais,
chouette.
Parenthèse.
Parenthèse fermée.
La dernière fois que j'étais en jupe, c'était un mariage.
C'est vrai.
Mais tu pourras te mettre en jupe aussi
si tu veux.
Numa, tu pourras te mettre en jupe si tu veux pour notre mariage.
C'est le témoin.
Il pourra se mettre en jupe s'il veut.
Il était
très bien avec sa jupe d'ailleurs pour ce mariage. On aurait dit justement, il était pourtant déguisé, mais on aurait dit une véritable fashion victim.
On aurait dit un Écossais.
Oh, ça m'étonnerait, il avait une espèce de jupe en simili-cuir violet.
Il avait une jupe, il était plein
en
comme un Irlandais. Donc un mec en jupe plein comme un Irlandais, c'est un Écossais.
Un fashion victim de JPG.
Ben carrément, il avait une veste de blazer, je crois, des grandes chaussettes de footballeur.
Waouh, JPG.
Enfin, en tout cas, une veste, je sais plus à quoi elle ressemblait exactement la veste, et une jupe en sky
veste.
Violet.
Ben une vraie veste, mais c'est que j'ai, tout simplement parce
un
que j'avais oublié mon
là,
pantalon.
Et c'était voilà, le thème du mariage, c'était le violet.
C'était le violet.
Voilà. Il avait oublié son
le
pantalon,
violet,
alors je l'ai dépanné avec une jupe.
Nous, on savait qu'il était déguisé, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pris pour une véritable fashion victime et qui ont pensé qu'il s'habillait chez Gauthier.
Ah ouais, mais c'est vrai que ça peut faire très chic.
Oui, mais il faut pas dire le contraire.
Bah non, jamais.
Ça
jamais.
Fait très chic jusqu'au moment où il a montré ses couilles quand on lui a demandé.
Dans notre société de consommation et d'apparence, très important.
Il faut savoir être un petit peu original parfois.
Parfois.
On ne l'est plus. Les Jones qui le Jones est rebelle, soi-disant, toujours l'adolescent est contre tout. Et finalement,
il fait réinventer un
uniforme.
Ouais, puis il fait la grève pour être fonctionnaire. Alors tu parles.
Ouais, non, c'était bien avec eux.
Ouais, mais bon, c'est quand même risible.
Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé.
Ah bah oui.
Dans les
parce que finalement, ce que veulent beaucoup de gens, de jeunes, surtout ceux qui ont les pieds dans la merde, et ben c'est.
C'est chanter comme le coq.
C'est ouais, mais c'est tout. Hein.
Ah bah oui, les jeunes ont les pieds dans la merde et ils veulent chanter. Hein.
Non, moi j'en connais un.
Oui,
le coq, ça fait
20 000 personnes au casting
cas,
de la nouvelle
mal.
Star, tout ça, hein, quand même.
Ouais, soit il veut être fonctionnaire, soit il veut être chanteur.
Enfin, non. Ils veulent gagner du pognon sans rien foutre.
Non, ils veulent.
Ils pensent que chanter, c'est rien foutre.
Moi, je veux être star.
C'est oui.
Et bah continue à écrire.
Pareil, consommation. C'est directement lié.
Ouais, non, parce que
ouais, c'est vrai.
Ce
bon,
que j'arrive à comprendre, c'est quelqu'un qui me dit moi, je veux être chanteur, je veux chanter, c'est ma passion. Je veux être comédien, c'est ma passion. Je veux être peintre, c'est ma passion. Mais je veux être star. Oui, tu veux faire quoi, star?
Être connu.
Célèbre.
Astronaute, en fait. Il veut aller dans les étoiles, mais il s'exprime pas bien.
C'est un film, ça.
Mm. Ouais. Bah, ça s'appelle Laissez-moi, c'est très drôle.
C'était bien?
Ouais, c'était bien.
Nous, on a bien aimé.
Ça avait l'air
mais
bien.
Ouais. Il faut aimer le
donc
côté
alors,
un peu surréaliste de l'affaire, sinon c'est
mais
bien.
Mais non, on va
conclure.
Là, on
déjà, on conclut.
J'ai oui, le thème.
J'ai allez, pas fait la conclusion.
Bah, oh là là.
Alors, si, conclusion. Moi, j'aime bien consommer. Enfin, je parlais de moi, j'ai rien préparé.
Oui, non, mais c'est bien, c'est fait pour ça, quoique. C'est pas pour tirer des thèses sur la société, c'est fait pour parler de nous.
Moi, j'aime bien consommer, c'est pratique. Après, par contre, je n'aime pas qu'on me culpabilise. Qu'on mette tout sur le dos du consommateur qui est toujours le cul entre deux chaises. Il doit consommer, mais il doit faire ça bien.
Nous, on consomme pas, on est assis
et
sur un tabouret.
Et plains-toi, nous pour l'instant, on a deux poubelles pour trier. Chez les Suisses, ils en ont déjà 5 ou 6. Hein,
ah, mais les Suisses, ils sont chiants. Il faut couper le moteur à chaque feu. Non, c'est bon, quoi.
Tu sais que leur plus grand problème dans les abris atomiques, c'est éliminer les couches des enfants.
La
ils,
couche,
ils savent
c'est
tout
un
recycler.
Magnifique exemple de côté pratique.
Ils savent tout recycler.
Tu m'étonnes. Qui c'est qui va revenir au linge à laver
bah
et
voilà.
Tout. Qui c'est qui va gratter la merde. Pas
et
moi.
Puis de toute façon, si on lave les langes.
Elle a l'air bien partie la conclusion. Là.
La lessive pollue.
Elle est partie
et
où
si on achète des couches, jeter les couches pollue.
Allez,
donc de toute façon,
arrêtez
quoi,
de faire des mots, mon consommateur.
Donc conclusion,
moins.
Conclusion.
Arrêtez de messieurs.
Ne vous reproduisez plus.
Et messieurs, ils dirigent. Arrêtez de tout nous foutre sur la poire,
prenez
vos responsabilités, arrêtez de dire qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est pas vrai, le monde n'est pas fini, on peut changer les choses, un peu de couille.
Oui, arrêtons le 4x4 ministériel et mettons un vélo ministériel aussi.
Ouais,
voilà, bravo. Et bien maintenant, après cette bonne tranche de bordel, nous allons passer à une nouvelle tranche de bordel, puisque nous allons passer sur Flo, qui devait commencer
ouais.
D'ailleurs. Donc,
ça,
on voulait faire
moi.
Plus de bordel que ça, mais donc à toi,
vas-y.
Dupontel.
ouais, mais j'ai consommé à mort aussi, parce que
on
est allé voir Dupontel dans un UGC. Voilà.
Bonne consommation. Il faut aider Dupontel. Hein.
Oui, mais pas UGC. Mais le problème, c'est qu'effectivement, Dupontel ne passait que chez UGC.
T'es obligé de consommer, il faut bouffer du popcorn.
Non, t'es pas obligé de manger du popcorn.
Ça reviendra pas dans les poches de Dupontel.
T'es pas obligé de manger du popcorn, mais si tu veux, ça fait un peu mal aux fesses d'aller voir Dupontel que chez UGC. Parce
si, moi j'ai vu dans le gala l'autre fois que Dupontel avait du popcorn dans ses poches. Et que c'était celui de Flo.
Ah non, j'ai pas acheté de popcorn. Ou alors si, il datait du marathon.
Bah, c'est
et
pour ça que t'en as
pas
acheté,
bon,
parce que c'est Dupontel qui l'avait.
Ah.
dans ses poches.
D'accord, fallait.
Enchaînons.
Ouais, d'accord, n'est-ce pas hein. Ouais, en fait, bref, ça m'a fait un peu mal aux fesses de ne voir Dupontel que dans les UGC et trucs comme ça et tout, parce qu'on, nous, on n'a pas de carte UGC, on ne va pas dans un cinéma particulier, et l'idée d'être obligé d'aller chez UGC nous fait assez mal aux fesses, mais bon, enfin, bref. Le film.
Quand on va chez Gaumont.
Comment
aussi,
il s'appelle hein. Le film
le... Merde, voilà. Enfermé dehors. En fait, ça faisait un moment qu'on
avec
l'attendait.
Yolande Moreau.
Parce qu'à un moment, on a vu apparaître une espèce d'ovni, de truc complètement fou au cinéma, et sur, en bande-annonce, et on s'est dit, oh là là, ça sent le Dupontel très fort. Et puis après, on a été pris un peu d'une prise de panique. Enfin, moi particulièrement, je me suis dit, mon Dieu, s'ils nous ont mis tous les meilleurs moments là, dans le film, on n'est pas dans la merde. Et quand je suis allée le voir, ça m'a fait vachement plaisir, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi délirant, aussi, je dirais pas, enfin,
poétique.
Pas inventif, mais créatif. Ah, non,
créatif, mais il y a.
En fait, techniquement, si tu veux.
Il y a tout lui aussi.
Ça m'a fait vachement plaisir, techniquement, de voir un film vachement abouti, avec un montage intéressant, etc. Enfin, pas des trucs complètement stéréotypés, il ose des trucs et surtout c'est vachement touchant quoi. C'est l'histoire d'une espèce de dérapé du bulbe qui sniffe de la colle et qui tombe un jour sur un, enfin qui voit un CRS, non il voit un policier se jeter d'un pont. Et alors sa première réaction c'est monsieur est-ce que ça va bien. Il faut savoir quand même que le type vient de se jeter du pont avec une corde au cou, un paquet de, enfin certainement une pierre au pied et tout, histoire d'être vraiment sûr de rester au fond. Enfin bref quoi, il s'inquiète un peu pour le type, elle se barre au commissariat pour rapporter donc les effets et essayer de prévenir quand même que vraisemblablement un de leurs collègues ne va pas très bien, puisque la dernière fois qu'il l'a vu il se jetait d'un pont avec des cailloux au pied. Et en fait, tout dérape à partir de là à cause de l'uniforme et tout. C'est vachement touchant dans son, bah dans son univers, dans son délire, dans son. C'est très observé.
C'est encore à l'affiche.
Oui, il est encore à l'affiche. Il est à l'affiche depuis la semaine.
Il est juste sorti la semaine dernière.
Ça fait 15 jours, non ?
Ouais, ça fait 15 jours. Ouais, non, mais ça.
Des fois, ça suffit. Hein.
Oui, mais celui-là, il est bien.
Ah oui, non.
Mais ça, c'est pas.
Même si
c'est pas parce
vu,
que le film est bien qu'il reste longtemps à
non,
l'affiche.
Non, parce que je pense que les gens ont été marqués par les derniers le dernier Dupontel.
Tout le monde recherche Bernie.
Et Monique.
Donc, mais c'est le monde de Dupontel. C'est un génie, ce mec-là.
Mais là, en plus, c'est vraiment touchant. Il parle un peu des déjantés, enfin, de tout ce qu'on peut croiser comme Clodo. Et c'est vraiment, enfin, on le voit un peu. Il a un fellow casque, il faut le dire. Mais il a quelque chose de très, enfin, il est volontaire comme garçon. Comme moi, un peu là sur l'émission, je me sens vachement volontaire. Et je sais pas, il a quelque chose dans sa manière de filmer. C'est complètement surréaliste. Et alors, ce qui est génial, c'est que dans ce film, il y a noté une participation de Terry Gilliam. Hein, déjà, ça annonce beaucoup. Et c'est un film qui emploie presque.
Il a grossi.
Non.
Parce que la dernière fois que j'ai vu Terry Gilliam, il avait grossi.
Je sais pas, j'ai pas un peu retenu. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce film emploie plus de cascadeurs que d'acteurs.
Oui, il a fait beaucoup de cascades lui-même.
C'est impressionnant.
Et sans prétention, il a fait plein de choses lui-même. Toutes ces cascades à lui, il les a faites lui-même.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça vachement agréable, de complètement surréaliste, et puis même de montage. C'est vraiment, techniquement, c'est un film qui fait plaisir.
C'est un projet qu'il a depuis longtemps.
Il faut aller le voir.
Faut aller le voir, et justement, tu vois, même si c'est distribué que par UGC, le problème avec des mecs comme Dupontel, qui font vraiment des films parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont ça au fond des tripes, parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils ont de la créativité en eux. Et moi, franchement, Dupontel, je trouve que c'est un mec qui est en avance sur son temps. C'est un mec extraordinaire. Il s'exprime super bien. Il a plein de choses à dire. Il a des idées. Il est sain. Il est extraordinaire. Et son problème, justement, c'est que...
T'as dit deux trucs qui vont pas ensemble. Il a des idées, de la créativité et il est sain.
Ouais.
Non, ça va pas ensemble.
Eh ben si, pour moi si, justement. Bah... Il est bien dans sa tête, ce mec-là. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas.
Oui,
et son problème,
film,
justement, c'est que par exemple, Bernie,
ça,
qui a été un film culte entre guillemets, comme on dit maintenant, tout ce qu'il a fait après n'a pas été assez distribué, et donc du coup, il ne peut pas en vivre. Et c'est justement un des travers de la consommation. S'il veut que ce film-là marche, s'il veut en faire d'autres, il est obligé que ce film-là marche. et donc il est obligé d'être distribué par des grands.
Oui, non, le problème c'est ça. Le problème
et
c'est
encore,
qu'il
ne fait pas de promo.
Non, non, le problème c'est que c'est UGC ou rien, ou alors, enfin, là il a de la chance parce qu'on l'a vu dans une grande salle, c'est UGC. Mais dernier film que ça que j'ai vu qui n'avait pas le choix, qui était chez MK2 ou rien, c'était la micro salle de MK2, quoi. C'est le ciné home vidéo. C'est le côté un peu pénible de l'affaire, quoi.
C'est un gros problème de
c'est
la distribution. Non, mais c'est pas que le marché, c'est aussi le gros problème de la distribution, où il y a des films qui seraient très, très intéressants de voir, mais ils sont distribués dans une salle.
Bah voilà.
À Paris. Alors donc, déjà, il faut avoir la chance d'habiter à Paris. Après, si peu que tes horaires tombent pas au bon moment, bah, tu peux même pas le voir.
Non, c'est pour ça que. Ça peut être une chance pour des réalisateurs intéressants qui font des choses intéressantes et qui sortent un peu de l'ordinaire d'être distribués par des grands. Donc il ne faut pas avoir mal au cul d'aller le voir chez le UGC. Justement.
Ouais. Non, c'est
pour une fois qu'il donne une chance à un film important plutôt qu'un film à gros budget qui va marcher uniquement parce qu'on nous en bombarde à longueur de journée à la télé, les affiches, la radio, machin.
Ouais, je sais pas, si tu veux. Moi, ce qui me fait toujours un peu mal au cœur chez UGC, c'est que UGC, si tu veux, noyote le marché, comme ça, avec son histoire de carte, etc., etc. Enfin, bref, t'as la carte UGC ou t'as la carte Gaumont et tu vas que chez UGC ou tu vas que chez Gaumont, etc. Et pour le coup, si tu veux, nous, on n'est pas consommateurs et ça nous coûte vachement cher de se refuser d'être consommateurs. Ça nous coûte vachement
plus
cher.
Ah, mais tout à fait. Et puis, de toute façon, on est perdant. Et de toute façon, ça ne sert à rien. Le boycott ne sert à rien. On est complètement impuissant.
Oui, mais c'est mon choix. Et le non, plus exactement, c'est que moi j'aime bien pouvoir
se priver soi-même.
Mais moi j'aime bien pouvoir me regarder dans la glace tranquillement.
C'est même pas ça.
Mais c'est juste pour
de
moi.
De toute façon,
pas pour les autres.
Même si tu vas dans un autre cinéma, tu sais pas
là,
ce qu'il va
faire
le patron de l'autre cinéma.
Pour pouvoir se regarder dans la glace. Enfin, si on commence à se poser cette question, c'est pas que
non,
pour
mais
le cinéma,
on fait plus rien.
C'est pour tout.
Oui, mais
c'est
non,
c'est
il...
pour tout.
Non, mais
le boycott ne sert à rien et ne nous fait.
Mais c'est pas boycotté.
Et nous fait que en fait se faire chier.
Nous, on boycotte pas. Si tu veux, on a refusé de prendre une carte UGC pour être sûr de continuer à aller dans les autres cinémas. Alors effectivement, on paye beaucoup plus cher parce qu'on va partout. Enfin,
moi, j'ai voir les films qui me plaisent.
Cher.
Moi, j'ai voir les films qui me plaisent, quand ils me plaisent, quand j'ai envie et dans n'importe quelle salle. Et je veux pas être affilié et me sentir obligé d'aller chez Machin ou chez Bidule parce que j'ai pris une carte de chez Machin ou chez Bidule.
D'accord, c'est vrai que le système
en revanche,
la carte, c'est autre chose.
Il y a un truc qui était quand même agréable. Il faut noter que dans le public qui était là chez UGC ce soir-là, parce qu'on y est allé quand même à un moment privilégié. On y est allé lundi dernier était férié. Nous y sommes allés lundi à la séance de 22h. Je peux vous dire que les gens qui étaient dans la salle UGC, c'était vraiment des grands fans de Dupontel.
Sûrement.
C'est quand même vachement marrant.
Mais de toute façon, les deux premières semaines, à mon avis, c'était des grands fans de Dupontel. Et il en a plein.
C'était extraordinaire.
Et il en a plein.
Les gens
oui, parce
se
que
marraient.
La majorité des gens, UGC, Gaumont, MK2, indépendants, ils s'en tapent.
Et bien sûr.
Et ça les empêche pas d'aller voir les films qu'ils ont envie d'aller voir aussi. Mais bon, c'est... Chacun voit midi à sa porte.
Par contre,
quand il est midi, évidemment.
Par contre, les gens vont voir les films dont on leur parle.
Mais c'est-à-dire, allez le voir parce que c'est quand même bourré de bons acteurs. Et
bah, c'est vrai que c'est le film que je voulais aller voir.
C'est extrêmement drôle. Et même, je vous dis, au niveau technique, c'est quand même un vrai plaisir.
Bravo pour cette conclusion. Voilà, après ce débat enflammé, on va faire une petite pause musicale.
Ouais. Ah d'accord, hein ouais. Allons-y, fais péter.
Voilà, donc alors attends, faut que je prépare, c'est hyper compliqué.
C'est vraiment tout dans le désordre en fait aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en plus on avait fait un planning au début et ça correspond pas.
T'avais pas mis dans ton planning la chanson?
Si. En fait, normalement, ça devait être Flo qui commençait, après Béa, après Ariane, après la chanson, après Numa.
Mais d'habitude, la chanson, je la mets deux fois.
Voilà. C'est parce qu'en plus, c'est passionnant ce que je suis en train de raconter, mais c'est parce qu'il faut meubler.
Ah.
Encore là? Il faut encore meubler là? Ouais. Tu la trouves pas la chanson?
Ah oui,
non, mais faut nous dire, hein.
Non, mais attends, moi j'avais un truc d'important à dire
seul
tout à l'heure,
avec maman.
Qui a été oublié à propos justement de la publicité. C'est qu'on a...
Mais on va en parler
non,
après.
Non, mais,
on va en parler après. Oui, non, mais après, Ariane va faire un truc
bah oui,
sur
mais
la
si
publicité.
Tu me coupes alors que là j'aurais déjà fini. Juste,
bah oui, mais
on a oublié de dire que parfois elle a un caractère informatif, notamment quand il y a eu des affiches pour présenter, je sais pas, des pièces.
Gérard Manset.
Gérard Manset.
Mais oui, tout à fait.
Des pièces de théâtre.
Moi, je parlerais du caractère informatif. informatif aussi. C'est, en fait, c'était la vocation première de ce qu'on appelle.
Ah, bah forcément.
Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a pas dit tout à l'heure.
On va le dire.
On l'a pas dit tout à l'heure.
Alors, lance.
Maintenant, c'est dit et on s'affirme.
On l'a pas dit tout à l'heure, mais on le dira tout à l'heure.
D'accord.
Ceux qui comprennent.
Donc maintenant, on s'affirme.
Donc voilà, donc encore une magnifique chanson. Sûrement le tube de l'été.
Pourquoi pas, oui.
Ça, si, pareil, hein, si on est matraqué de pub et tout, ça devrait.
Ça va pleurer dans les chaussures.
Si on bombardait, si on faisait de la promo, mais ça marcherait.
J'en suis sûr.
Évidemment. Par contre, pour que ce soit le tube DVD, de l'été, il faut qu'on invente une danse avec. Comme la lambada, la macarena.
C'est le slow.
Parce que c'est un slow. Un slow de l'été n'a pas besoin.
De danse, parce qu'il y a déjà une danse.
Mais il faudrait qu'on se fasse remarquer si on faisait de la promo.
Voilà, bon,
on va lâcher des CD gratis dans les boîtes aux lettres.
Voilà, et c'est toi qui les payes.
Ça, c'est pas de la promo. C'est pas de la promo au grand public. Pour la promo au grand public, il faut passer à la télé.
Ouais. Ah, et surtout à
ça
la
va
radio.
Nous coûter plus cher. Hein.
C'est quand même
et
la
il
radio.
Faut, voilà, pour la musique, il faut être diffusé à la radio. Maintenant, c'est eux qui dirigent. Donc,
voilà. Donc, alors, sur un texte de Numa, le grand poète, qui a réussi à écrire son poème, apparemment.
Ouais, il est ridicule, le poème. Hein.
Une musique de ton verre, le grand musicien, et chantée par ce même ton verre, le grand chanteur. Donc, ça s'appelle C'était comment déjà ? Voilà. Silence.
Chez moi, je ne sais pas ce qui t'incite à me revenir comme ça. Je marche dans la rue près de toi, on prend un verre pour deux. Puis il fait un peu froid, je t'embrasse et rentre heureux. Ça me fait du bien quand t'es là, va savoir pourquoi. Ça me fait longtemps déjà que je meurs sans toi. Ça me fait du bien quand tu viens, tu vois je ne t'oublie pas. C'était comment déjà, quand tu étais là. De temps en temps tu rends visite à tes amis d'autrefois. Et je te vois et j'hésite à te serrer dans mes bras. Toi tu ne vieillis pas, t'es toujours comme avant. Souffrance en dedans, et moi qui l'heure tout bas. Ça me fait du bien quand t'es là, va savoir pourquoi. Ça me fait longtemps déjà, et puis souviens-moi. Ça me fait du bien quand tu viens, tu vois je ne t'oublie pas. C'était comment déjà, quand tu es. Ça me fait du bien quand t'es là. Ça me fait du bien quand t'es là. Ça me fait du bien quand t'es là. Va savoir pourquoi. Ça me fait longtemps déjà. Ça me fait du bien quand tu viens. Ça me fait du bien quand tu viens. Ça me fait du bien quand tu viens. Tu vois, je ne t'oublie pas. C'était comment déjà quand tu étais là.
Voilà.
Bravo.
J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a le poème de Numa qui a maigri.
Ah bon, merde.
Ah, le poème. J'ai compris le poil. J'ai demandé lequel.
Le poème.
Le poème.
Le poème.
Donc là, il y a un grand quiz, un grand quiz interrogatif. C'est intéressant, ça. C'est quel est le BA, toi qui es la seule à pas connaître la chanson.
Il y a des questions interrogatives.
Ouais. Qu'est-ce que tu comprends? Ça raconte quoi, à ton avis?
Ah, bah pour moi, c'est une déclaration à une fille, à sa gonzesse ou à son mec. Bah, je trouve ça mignon. Hein.
Alors, Numa, toi, qui est l'auteur ?
Ah, moi, je sais pas.
Bah, si tu sais.
Moi, je sais, mais je pense qu'il ne le dira pas, surtout.
Il y a deux lectures.
Non, il n'y a pas de lecture. Moi,
il y a deux lectures.
Après. Non, mais après, ça, il n'y a pas deux lectures. Après, ça, les gens se démerdent. Moi, il y a ce que j'ai écrit. Je sais où je l'ai pris. Puis après, ça m'amuse beaucoup de voir toutes les différences.
En marque, ça pourrait être une pseudo-déclaration, que ce soit un mec à sa nana, une fille à son mec, ou un pote à un pote, ou... Ça peut être plein de choses. Moi qui écoute rarement les paroles, j'y fais même pas attention. Là j'ai écouté.
Mais je sais pas, moi je pense qu'il faut pas trop en discuter les uns les autres ou autre. Je pense que ce qui est chouette avec celle-là, c'est qu'à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un en parler, à chaque fois on a eu une version différente. Personne n'a compris la chanson de la même manière.
Le problème,
je pense qu'il faut vraiment s'approprier les trucs, parce que tout ce que j'ai entendu à chaque fois, c'était plutôt assez joli.
Au début, il m'a pas expliqué, je l'ai pas compris du tout comme comme lui.
Comme lui l'a écrit. Oui, mais
en plus, il m'avait envoyé une version Starac. Qui était pas tout à fait pareil.
C'est quoi la version Starac?
Il y avait pas d'autres. Quelques mots différents, et là ça prêtait absolument pas à confusion.
Si.
L'autre version, non.
Ah, si, bah, tu l'as compris comment alors?
On t'expliquera après, on va laisser les gens qui nous envoient des messages pour nous dire comment ils l'ont compris.
Envoyez-nous des messages.
Ça, c'est comme quand tu fais du français, tu sais, en première et que tu passes le bac à la fin de l'année, c'est que tu commences toutes tes phrases par l'auteur à vous le dire que. D'abord, on ne saura jamais ce que l'auteur a
voulu dire. Il est là, l'auteur.
Mais il n'a pas forcément envie de le dire.
Il nous le dira
en off. Et finalement, c'est l'interprétation, quelque chose de relativement personnel. Après, comme tu disais, chacun y voit.
À savoir que l'auteur me dit qu'il ne faut pas que je fasse des effets de voix. Et que lui, il jette pas pour faire des effets de texte. Alors, et moi qui leurre tout bas, c'est bien moi qui leurre tout bas, c'est pas moi qui est rappé, au lieu de dire moi qui pleure tout bas, c'est bien moi qui leurre tout bas dans le texte.
Ben oui.
Si c'est pas un effet de manche aussi. Et puis souviens-moi aussi.
Ben oui.
Non, mais.
Et leurre avec un seul R, c'est un mot que je connais pas, ou c'est une faute
volontaire ? H-E-U-R-E, c'est.
Non, il y a deux R.
Quelle heure est-il ? Madame Sardine.
Ah voilà.
4h moins 4.
C'est que David l'a mal écrit.
Ben,
c'est toi.
Moi, je sais pas, j'ai deux R sur mon truc derrière.
D'accord.
Non, mais cela dit, ne vous cassez pas la tête à chercher une explication, parce que jusque-là, tout ce que j'ai entendu, j'ai trouvé ça plutôt joli comme explication, donc je trouve ça bien qu'en fait chacun puisse vivre avec son idée de la
chanson. Envoyez-nous vos explications, on les dira dans l'émission.
On les corrigera.
Et on.
Non,
on
les meilleurs gagneront
un
droit
à
porte-clé. On fait porte-clé quoi que.
La plus belle interprétation de la chanson. Gagnera
une bouteille de
le droit de venir le raconter en direct dans l'émission.
Ouais, c'est une bonne idée.
À l'émission.
Et les filles, envoyez vos photos.
Non. Vos vraies
les
photos.
Les mecs aussi peuvent, hein.
Oui, les mecs aussi.
Bah oui.
Il y aura deux jurys.
Et de tête-pied, hein.
Ouais.
Avec la taille.
Taille poids.
Donc, ça faisait longtemps.
Voilà.
J'ai failli tout renverser. Un petit jingle et après, Ariane.
Ok.
Ouais.
Voilà. Donc Ariane, qu'a voulu dire le compositeur dans cette musique ? Non, c'est pas ça.
Non.
Donc tu vas nous faire un petit quiz sur la pub.
Et la chronique d'abord.
D'abord, je vais vous faire une petite histoire de la publicité.
D'accord.
Puis ensuite, je vous ferai un petit quiz sur les slogans publicitaires.
Je vais gagner.
Ouais.
Ah. Alors, j'ai trouvé un site sur le... Il y a à Paris un musée de la publicité. Le savoir.
Ça m'intéresse. C'est où ?
Il est 107 rue de Rivoli, dans le premier arrondissement, si ma mémoire est bonne. Et il a également un site qui, si je ne dis pas de sottises, doit être musée-de-la-pub.org. Voilà. Avec tous les fameux W, HTTP, machin chouette, devant.
Qu'on n'y comprend rien.
Et donc, il y a une partie qui est plus ou moins rattachée donc, à ce fameux site du musée de la publicité, qui s'appelle l'histoire de la publicité, dont je me suis inspirée donc, pour faire cette petite chronique, et qui commence par quelque chose de très juste, donc qu'on évoquait tout à l'heure. La publicité est partout et personne ne lui échappe, ça c'est important. Ouais. Elle colore nos pays, transforme nos vies en clips, influence nos comportements, séduire, convaincre, informer, faire rêver pour faire vendre.
Voilà, tout est dit.
Je crois que tout est dit. Et il rajoute, elle cristallise les grandes tendances culturelles, sociologiques d'un moment de la société. Ça aussi, c'est important.
Complètement.
Parce que, bon, on va pas se lancer dans un grand débat philosophique non plus sur la publicité crée-t-elle la mode ou la mode engendre-t-elle la publicité. Mais on pourrait effectivement se poser la question.
Mais ce que tu dis, ça fait carrément peur, parce que sur une brocante, un jour, j'ai récupéré un cendrier qui date de je sais pas quand, hein, j'ai pas de date dessus et tout. Mais le slogan, quand même, c'est qu'il faut les produits qu'il vous faut.
Mais c'était les premiers slogans.
Ah oui,
des
mais je trouve ça. Mais, ah,
on a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Et les produits qu'il faut, ça s'écrit quand même K-I-F-O.
Ah,
ça c'est quand même. Ça c'est du beau slogan. Ça c'est du beau cendrier, je vous assure.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la publicité n'a pas fait son apparition avec les médias dits modernes. Puisqu'on trouve donc vers XIIe siècle, fin du XIIe siècle, ce qu'on appelle publicité, c'est le criage, donc le service public, qui dépend du domaine royal et qui est organisé en corporation. Les crieurs sont assermentés et crient les ordonnances royales. À cette époque-là, on ne savait pas lire. Les enterrements.
Personne.
Et donc, si les ordonnances royales et les enterrements. Alors, tu parles d'une publicité, effectivement.
Mais personne ne savait lire.
Il y a très peu de gens qui savaient lire.
Précise.
Et puis après, mais puis maintenant qu'on est moderne, on a crié le criage électrique.
Maintenant, on sait lire, mais on ne sait pas comprendre. Donc il faut être précis.
Non. Donc les ordonnances royales et les enterrements. Effectivement, les enterrements, maintenant tu lis le journal, tu as toujours les rubriques nécrologiques. Hein. Il y a des gens qui ne lisent que ça dans le journal.
Il faut se tenir au courant. Hein.
Et puis les.
Ensuite, si votre con, il est mort.
Il faut refaire l'annuaire.
Environ 300 ans après, les marchandises. Enfin, pas tout à fait 300 ans. Au Moyen-Âge, les enseignes parlantes, ce qu'on appelle enseignes parlantes, elles ne parlaient pas, hein, il n'y avait pas de pile à l'époque, signalent la nature des commerces et servent de repère avant la numérotation des immeubles. Donc, oui. On avait une tête de sanglier pour signaler une boucherie, un type...
Musée Carnavalet, il y en a plein, Musée Carnavalet à Paris, il y en a plein des machins là, des qui pendouillent là.
Des enseignes parlantes.
Voilà.
Ça doit être le terme technique, je pense.
Bah, c'est un truc parlant, c'est un truc qui te parle.
Je saute ça plusieurs siècles.
Sautons
les siècles.
1722, création de la corporation des afficheurs. Ça y est, on arrive à quelque chose d'un peu plus
organisé,
lisible. Les gens savaient peut-être un petit peu plus lire. Le droit d'imprimer et d'afficher est soumis à autorisation.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Oui, mais enfin bon, c'est quand même pas tout neuf. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? 1789, outre la révolution, liberté de la presse. C'est important parce qu'effectivement,
énorme.
Dans la presse, il y a quand même énormément de publicité. 1832, donc on n'est pas tout à fait 100 ans plus tard, fondation par Charles Havas du Bureau Havas, première agence d'information internationale.
Ça commence à prendre forme.
1845, création de la Société Générale des Annonces, première structure de courtage en publicité.
Ah là, ça y est.
Donc là,
foutu.
Ça y est, on est.
Je t'ai foutu.
On est en plein dedans. Et en 1865, donc tout début de la deuxième moitié du 19e siècle, les annonces représentent en moyenne un tiers de l'espace des journaux.
C'est énorme.
Ce qui est quand même
et
énorme.
Et maintenant, on sait
Oui, je dois l'avoir à la fin.
Je me souviens, donc ça y est, j'ai acheté le top 50, le journal top 50, et au début, il n'y avait aucune pub.
Ouais.
Au début.
Voilà.
Et puis à partir du 50e numéro,
c'est ça,
à peu
le truc
près,
de la pub.
Je les ai toujours. Vous pourrez demander à Ariane, quand elle vient chez mes parents, elle les lit.
Je les lis.
J'adore, parce que moi, j'ai perdu les miens.
Voilà. Donc là,
Manque le numéro 1 et 2.
Je ne sais pas si on peut considérer ça comme les...
Avis aux amateurs.
Les prémices de la consommation, ou de pousser du terme pousser à la consommation, mais en 1880, donc c'est pas tout neuf, Suchard ajoute des images à ses tablettes de chocolat. Qui n'a pas collectionné les images des tablettes
mais si,
de chocolat?
C'est comme ça que ça a commencé. C'est avec ces grandes marques-là, parce que ça fait partie de l'histoire et on s'en souvient encore. Enfin, pas directement. Et si, ça a commencé comme ça.
Le cadeau Bonux est un peu plus vieux, mais c'est le même principe. Hein.
Mais voilà.
Et Kinder.
Kinder fait pas de cadeaux. Ah si, dans les Kinder Surprise.
Oui, mais enfin si. Tu l'as, oui, c'est pas.
Ah oui, mais
c'est
quand
pas
même.
En plus, tu l'achètes pour ça, quoi.
Oui,
bah oui, quand même.
Parce que le chocolat, bonus, tu crois que tu prenais pourquoi?
Le chocolat d'abord.
Et bonus, que tu crois que tu l'as acheté pourquoi?
Bah pour laver ton linge.
Mais parce qu'il y avait le cadeau bonus aussi dedans.
En plus.
Oui, mais dans le chocolat Suchard, c'est les enfants qui mangent le chocolat, alors que dans la lessive bonus, en général, les enfants ils s'en foutent de la lessive.
C'est les parents qui mangent la lessive.
C'est pas dans la lessive. 1896, on est presque donc à l'aube du XXe siècle, la publicité rapporte au journal Le Figaro 37,5% de ses recettes.
Et c'est là que ça a commencé à déraper.
Voilà. On voit apparaître le Bibendum Michelin en 1898.
Il a grossi.
Et
fille.
On passe...
Non, il a remaigri.
Au siècle
il
suivant.
Maigri, hein.
Partir de 1918, à la fin de la guerre, le petit écho de la mode. Ça, c'est un truc qui a eu la peau dure parce que ma mère le lisait, je m'en souviens quand j'étais gamine. Propose des bons de réduction pour l'achat de nouveaux produits. Début du couponing.
C'est là qu'on peut se demander si la pub et justement cette force de vente à pousser à la consommation n'a pas commencé avec les femmes.
Ah, ça c'est fort probable.
Bah, ouais.
Qui achète?
Bah, hey, comme tous
c'est les femmes.
Ce sont les femmes.
Bah, oui.
Ça commence toujours par là.
Et même si un homme est effectivement,
la pomme.
On va dire, capable de s'habiller ou d'acheter une voiture, tout ce qui est dépenses pour la maison et pour le fonctionnement quotidien, ce sont
c'est
les femmes. Et encore aujourd'hui. Hein,
quoi un jour, il y a un mec qui l'a dit manger des pommes, Eve a y aller, et hop, et depuis, on est dans la merde.
Voilà.
On parlait tout à l'heure.
Pour faire du bon calva, il faut commencer par la pomme.
Ouais, on parlait tout à l'heure de la vache qui rit. Benjamin Rabier, en 1921, invente, on dit Benjamin Rabier invente la vache qui rit. En tout cas, il invente son image.
Il invente son image parce qu'en fin de compte, c'est juste de la crème de camembert.
Mais
il invente la tronche
de la vache qui rit. Qui n'a pas tellement changé, justement, depuis l'époque.
Qui n'a pas tellement changé, elle est toujours tournée dans le même sens.
Ouais. Ouais. Et pourquoi la vache qui rit?
Ah bah alors ça, on se le demande toujours.
D'ailleurs, une
on se le demande encore.
Pub géniale.
Et la petite vache trèfle d'or, enfin le veau trèfle d'or sur les plaques qu'on a, et ben il sourit aussi.
Et moi, je me souviens de la vache Grosjean.
Et aujourd'hui, ouais, effectivement,
bien marché.
Où on parle
ah bah non,
de société de consommation, qu'on revient un petit peu aux trucs anciens, etc., on te vendra une image, une affiche dessinée par Benjamin Rabier avec la première vache qui rit, une fortune.
Voilà. Ouais, ah bah ça marche très fort, hein, tous les objets publicitaires.
Tous les objets publicitaires d'autrefois.
En brocante, maintenant c'est hors de prix.
On voit que ça existe depuis longtemps,
ouais,
donc c'est
beer.
Historique
donc,
et culturel.
Non seulement
voilà,
on est bouffé culturel. Par la publicité,
ouais, pour le
beer, plus,
le Fernet Branca, le Cointreau.
Ah, ça c'est
murs,
sur les murs, c'est plus difficile.
Sur les murs, on a un
soi.
Ami qui collectionne.
Du bonnet.
Qui prend du photo tous les murs où il y a des publicités du bonnet.
Ah bah ouais, attends, c'est.
Ouais, comme les mecs qui collectionnent les boomerangs ou on l'invite souvent à manger.
On avance un peu, 1927, création de Publicis, qui est extrêmement connue par Marcel Bleustein-Blanchet, c'est difficile à dire.
Donc première agence de pub avec tout ce que ça engendre.
Voilà, connue. 1930, la publicité représente 64% des recettes du Figaro.
Oh la vache.
T'en es passé quasiment au double.
La vache qui rit.
La vache qui rit, ouais.
Ah, elle rit plus trop là, elle rit jaune.
1938, au début de la guerre, naissance du petit mineur, Jean Mineur. Encore aujourd'hui,
Jean Mineur, toujours au cinéma.
Oh, il a dans le cul. Il s'est fait racheter, il ressemble plus à rien maintenant.
Non, il s'est fait
c'est Eddie Mitchell qui nous l'a remonté dans la dernière séance. Parce qu'on ne voyait plus beaucoup Jean Mineur en public.
Ben, nous, on le voit régulièrement, mais comme il a été racheté. Non,
il a été racheté.
Il a été un peu modernisé.
Non, ils ont gardé le bonhomme.
Ils ont gardé quand même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Champs-Élysées 0001.
Oui, mais t'as Jean Mineur d'un côté, de l'autre côté, t'as Publicis.
Bah oui,
oui.
Parce que maintenant on affiche
et
ça vient.
Et t'as Jean Mineur en tout piti et Publicis, ouais. Ils sont vachement gros.
Enfin, mais je suppose qu'il s'agit de Jean Mineur, hein. Naissance du petit mineur, je pense que c'est lui.
Bah, j'en connais pas d'autres. Hein.
Jusqu'à maintenant on a parlé du Figaro, mais le cinéma représente 0,76% des investissements publicitaires. La radio 4%, on est déjà un peu plus en avance quand même. Enfin c'est normal, hein. 38, le cinéma parlait depuis 10 ans, donc bon. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Là, on avance. Ah. Si, on avance un grand pas. On avance un grand pas. 1958, le début des cadeaux bonus. On parlait des cadeaux bonus. Finalement, ils ont mis le temps à s'y mettre par rapport aux images Suchard. Il y a quoi? Il y a 5 ans, il y a 60.
C'est pas le même budget, une image et un cadeau bonus.
Ah ben. Mmh. Oui, puis à l'époque, on faisait pas encore fabriquer les petits objets en plastique made in Taiwan, quoi.
Et fabriqué encore en France.
Il a été, d'ailleurs, il a été le cadeau bonus. Là, par contre, je saurais pas vous dire quand il a été abandonné, puisque ça a disparu ensuite et il est réapparu en 2000.
Ouais, maintenant, il met une boule.
Non, pas avec la poudre.
Une dosette à une paille. Hein? Avec la poudre, ils mettent une paille.
Ah bon?
Ah oui, oui, toujours.
Ouais. Ouais, c'est fourni avec.
Alors.
Ou une petite cuillère, une seringue, enfin ça dépend.
Ouais, un truc comme ça, il y a briqué avec.
Début des années 70.
Vite, mais il faut expliquer longtemps, allez, la blonde. Hein.
On passe aux années 70. Internationalisation, c'est difficile à dire, de la publicité et concentration des agences. En 1980, la grande distribution dont on a largement parlé tout à l'heure.
1980, le paradis de la société de consommation, de la
voilà,
pub.
On entre dans les années 80, donc effectivement, le gros boom de la société de consommation.
Oh, ben, heureusement que c'était les socialistes au pouvoir.
La grande distribution, c'est 9% des investissements publicitaires. Ouais. Voilà. Comme ça, au passage. Ah, 1984, création de Canal+, première chaîne privée cryptée et payante, donc.
Donc c'est pas la publicité.
L'affichage représente... Non, mais bon, la même... Oui, mais bon, Canal+...
Oh, mais elle vivait pas de publicité.
Elle vivait des abonnés.
Oui,
mais,
oui, mais ça marque...
C'est un an après, TF1 ? Non, la 5.
Non, c'est après, c'est après, bien après.
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 La 5.
C'est bien après.
C'est deux
la
ans
5.
Après.
La 5,
c'est deux ans
la
après. 1986-87, la 5 et TV6.
Voilà.
Donc les chaînes entièrement et là, et voilà. privées, donc voilà. entièrement
financées.
Et là,
financées on y rentre à donf.
Par la publicité.
Et ouais. en 84, l'affichage...
Mais c'est aussi le travers de la publicité, c'est que ça permet d'avoir des choses gratuites. C'est-à-dire,
oui.
si on accepte d'être matraqué par des
mais
vendeurs,
bah non, tu peux payer
on a
ta
des
bagnole,
choses gratuitement.
Tu peux,
notamment
tu
sur
peux,
Internet,
oui,
tout ça, il y a plein de choses qui sont gratuites.
Il y a une nana qui a une Smart, et elle s'est baladée à un moment, elle avait la Smart Vania, c'était
mais
super sexy.
Il y avait une corde attachée derrière.
Non, c'était une hygiénique.
Il faut remplir un certain nombre de conditions, il faut habiter une grande ville, il faut sortir régulièrement, il faut se balader dans un certain nombre de quartiers.
Et tu t'imagines, môme, à 9 ans,
et
ta mère qui vient te chercher avec sa Smart Vania devant l'école. Super.
Pourquoi pas? Tu payes pas ta bagnole.
Mais
après tout, pourquoi pas?
Est-ce que tu
là, c'est toi qui utilises le système, c'est plus lui qui t'utilise. À la limite, moi, pourquoi pas?
Ah, moi, ça me dérange.
Oui, mais est-ce que
pas,
le gamin aurait envie? Mais et toi, gamin, mets-toi à la place.
Gamin,
d'un
de toute façon, quelle que soit la bagnole que tes parents peuvent avoir, en général, t'as honte.
Exactement.
Donc que ce soit marqué Vania dessus.
Que tu te balades avec
chose,
une vieille bagnole pourrave d'une couleur pourrie, ou que tu te balades avec une Smart top mode
serviette
Vania,
hygiénique.
Rien à foutre.
Et ils ont fait ça aussi pour le téléphone où il y avait des slogans publicitaires pendant la conversation.
Là par contre, ça devient plus pénible.
Ils ont abandonné, je crois ça. C'était
oui,
bouillant.
Fin des années 80, début des années 90.
Je crois qu'ils ont abandonné.
Donc le grand boom effectivement de la société de consommation, la publicité a enfin son émission. 1989, première émission consacrée entièrement à la publicité à la télévision, Culture Pub sur M6.
C'était une très bonne émission.
C'était également l'année de la mort de la mère Denis.
Oh,
qui a marqué notre enfance en faisant
c'est
la publicité.
Ben vrai, ça.
Oui, c'est ben vrai, ça.
Elle avait vedette. Mais oui,
ben mérite vrai, ça. Votre confiance.
Et d'ailleurs, elle est morte quand je ferai plus
vient
ça
te,
jamais.
Te...
Je ferai plus ça. Je ferai pas ça tous les jours.
Ah bah je ferai pas ça tous les jours. Elle est morte il y a pas longtemps.
Il y a ouais.
si, non. Marie-Pierre Cazet.
Marie-Pierre Cazet.
C'est une connerie. Ça se trouve, elle est toujours en vie.
Non, Marie-Pierre Cazet. Non,
elle est morte. Il y a un an.
Il me semble qu'elle est décédée, mais
non.
Germaine,
si ça se trouve, j'ai une connerie. Hein.
Germaine est toujours vivante en tout cas.
Bah,
elle fait ses courses au Monoprix de la Croix-Rousse.
Germaine.
À Lyon.
Germaine.
Elle fait
à
ses
Lyon.
Courses.
De l'Ustucré.
À Lyon. Oui.
Au Monoprix
oui,
de la Croix-Rousse.
Ah non, on parle de je ferais pas ça tous les jours. Celle
la,
qui
la
passait.
Oui, c'est un quartier de Lyon.
Mais oui, mais on a des femmes qui sont des emblèmes, effectivement, tout comme la mère
de Germaine
Denis,
fait
vedette.
Ses courses.
À Lyon.
À Lyon.
Et Marie
pour rugir de plaisir.
À Lyon.
À Lyon.
En 1990, la télévision représente 25% des investissements publicitaires. La tendance est forcément donc en train de s'inverser.
Ah bah de toute façon, il y a de la pub partout maintenant, même hors
c'est
des pubs.
Vrai.
Oui, mais là on change de média, c'est-à-dire que de la presse, on passe à la télévision.
C'est énorme.
Je passe à 1998, on se rapproche. L'effet foot.
Ah.
Les athlètes de haut niveau, nouvelles stars de la publicité, servent de locomotive aux produits les plus divers. C'est-à-dire que on avait à une époque effectivement utilisé des gens comme la dernière séance
Eddie Mitchell
pour les chaussettes STEM avec son groupe
oui,
les chaussettes noires.
Noires.
Donc ça c'est les années 60. Et ben en 98 on repompe le truc et on prend des gars célèbres pour faire de la pub pour
et
tout
qui,
n'importe
et qui
quoi.
Sont célèbres à cette époque-là
et que ça fait n'importe quoi. Je me souviens, c'était Barthes qui bouffait les, qui faisait la pub pour McDo et dont on se foutait.
Non, mais le champion du monde pour ça, c'est Zidane.
Ouais, Zidane, il en a encore une. Il a fait Evian, il fait les
Zidane,
bleus,
en
il
a
fait tout.
Des caisses.
Oui,
il
non,
en a,
mais Barthes, il
a fait
quatre produits
par
parce qu'à ce moment, il commençait à devenir gravement chaud.
Il a même fait la pub pour Leader Price.
Tant qu'il y a des couillons
quand
pour le payer.
Maintenant, ils prennent même des athlètes de sport pas très connus et ils écrivent en bas champion du monde de curling ou
ouais,
champion
ou les,
du
ou
monde
les
d'aviron.
Ouais, faut préciser quand même.
Machin, vulcanologue renommé aussi, les faux scientifiques dans
maintenant,
les pubs.
Ça va tellement vite qu'on ne prend plus la peine de créer un personnage, par exemple, comme la mère Denis qui va devenir un emblème. C'est ou qu'on
Marie.
Prend des personnages tout faits.
Voilà.
Et Véronique qui... et Davina, moustache. Voilà.
Aussi.
Par exemple.
En plus, il me semble que en 98, ça a été le record du prix du spot de pub pendant la diffusion du match de
ah
finale.
Ah oui, ça se vendait.
France-Brésil, ça a été un carton plein.
Je sais pas, je vous ai, on a
jamais
vous ai
vendu
pas fait l'histoire des prix de
la page publicitaire
la
aussi
chère.
En France.
En France, parce que sinon, aux États-Unis, c'est pendant le
Super
Bowl.
Le Super Bowl, c'est 2h30 de match, 5h de pub, à peu près.
À peu près, ouais.
Allez,
c'est pour
je
ça
fais.
Que le football, ça marche pas parce qu'il n'y a,
qu'une
y a pas assez de coupures.
Non, puis ouais, parce que mi-temps. Moi, j'ai essayé de m'intéresser
ouais,
un petit peu
sur le terrain de foot.
Au Super Bowl,
qui tournent
2h30 de match, 5h de pub. Comment tu fais pour tout loger dans la journée?
Ah, mais j'y arrive, très bien.
Et enfin, donc, année 2000, donc, qui n'est pas si loin que ça, les derniers chiffres, la presse représente 51% des investissements publicitaires, donc ça a grimpé quand même moins vite. La télévision, on est à 29,3%. La publicité extérieure, 12%, dont 8,9% pour l'affichage. Radio, 7%, donc c'est ce qui grimpe en fait le moins vite. Et le cinéma, 0,7%.
Bah, la pub à la radio dépend aussi de l'audimat de la radio.
Bien sûr.
Une radio qui n'est pas écoutée n'a pas de pub. Dès qu'elle est écoutée...
Par exemple.
Voilà. T'as que de la pub.
On fait pas de pub.
Ah non, nous, on fait pas de pub.
Non,
c'est
pas
ça,
et
pas prêt de venir nous emmerder parce qu'on dit qu'on a mangé des knackiboles
bah,
et que c'est
avec
dégueulasse.
Avec 100 téléchargements, je pense que non, elle risque pas de nous emmerder.
Ce qui est intéressant dans les knackiboles, c'est ce petit goût synthétique inimitable.
Il pourrait nous payer.
T'achètes
hein.
des knackis, tu les coupes en morceaux, ça a le même goût. Hein.
Carrément.
Ouais, mais
parce que là, tu payes le packaging, je te signale.
Ouais,
ouais mais c'est plus facile, c'est moins facile.
Voilà. Eh ben voilà, on est en plein dedans, tu le payes.
Ouais, mais il pourrait nous
classique, un packaging.
Il pourrait nous offrir des knackiboles pour qu'on mange des knackiboles. On les paierait pas.
Bah tu payes le fait que ce soit des boules au lieu
c'est
que ce
vrai.
Soit un.
Quoi
que
je
mais tu payes la pub qu'ils ont faite aussi, qui était
au lieu
très
que ce
drôle,
soit
d'accord.
Un long membre.
Bah tu la payes la pub.
Ah je me souviens de la pub parce
elle
que.
Elle était très bien, la pub était très drôle.
Non ce que moi,
bon
ce que j'aimais
boules.
Bien c'est que quand on voyait le paquet dans la pub ça débordait puis quand tu l'achètes ça déborde.
Toujours
pas.
Les photos
bah
sont
non,
super.
Non parce qu'il faut fermer le couvercle.
Bah ouais. Bah allez. Ouais, mais c'est nul dans la pub, tu vois, ils ont machin, c'est plein à remplir à bord, ça déborde.
Il a pris deux.
Publicité mensongère, peut-être.
Il a bah, moi, ça me fait penser à ça. Hein.
Il a pris deux pots, puis il les a mis dans un seul.
Ouais, mais ils me l'ont pas montré, hein.
Allez, t'inquiète pas, maintenant ça va marquer en dessous, en petit.
Je sais que vous êtes adepte des quiz, je vous ai fait un petit quiz.
Ouais.
Il y a des slogans qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on la vit longue et la peau dure.
Oui.
Essayez de me retrouver, on va dire, un ou deux ans près. Les années assez...
Les années.
Eh oui.
Oh la vache.
Ah oh bah écoute, allez. Bon, on va aller faire un tour.
T'en parlais tout à l'heure justement.
On a toujours besoin d'un petit poids chez soi.
Exactement.
60.
Eh ben non.
57.
On a souvent besoin de petits pois chez soi, en fait, c'était très exactement.
Ça va être super chiant.
Et c'était 1984.
C'est bien parti.
Ouais. 84
petit, personne ne va jamais avoir la bonne
année.
Non,
c'est
année.
Pas possible.
Petit pis costaud. Hein. Tu sais ce qu'il dit, le consis.
Allez, même année, le ton, c'est bon.
Et le ton blanc, 84. C'est excellent.
Grand-mère sait faire un bon café.
Grand-mère sait faire un bon café.
Ah oui, tiens, chantez-les-moi, ton café.
Grand-mère sait faire un bon café. 82 86
T'es pas très loin.
84
Non, 78.
Oh la vache.
On n'était pas bien vieux. Hein. Donc tu vois, quand je dis que les slogans peuvent avoir la peau dure,
ah bah,
mettez
oui.
un tigre dans votre moteur.
Peugeot.
Esso,
pardon. Oh là
Peugeot, c'est une voiture.
88
1960.
Hein. Oh là là.
Métain, c'est un concessionnaire de Peugeot, justement.
Allez, mini-mire, mini-prix.
Métain Lyon dans
mais
votre...
Il fait le maximum. Je connais ça depuis longtemps. Pareil, les années 80.
1967.
Oh là là.
Un mars et ça repart.
88.
1970.
Oh, c'est pas possible.
Allez, je vous en fais un dernier pour la fin. Il y a Bon Banania.
Ah, oh, bah c'est très vieux, époque coloniale.
20.
1923, voilà. Ouais, t'étais pas très loin. Voilà. Ah, il y avait le Tritz fond dans la bouche, pas dans la main. Celui-là aussi.
Bah, le Tritz n'existe plus, donc il existait quand j'étais petite.
C'est le M&M's.
Allez, 80, 78,
1966. Comme quoi, on a aussi été marqué dans les années 80. En fait, il y a eu un boom de l'image. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses où on a gardé les slogans des années 60. Moi, c'est ce que.
Mais aussi, je suis très étonnée pour les petits pois.
J'ai été la première surprise. J'ai été la C'est le musée de la publicité qui dit ça.
Ah ouais, mais attends, tu me dis quelle année ? Mes parents connaissent
1984.
C'est pas possible.
Les petits pois, 1984.
C'est pas possible, mes parents.
T'es pas encore né, tes parents, en 84 ?
Mais justement, ils connaissaient. C'est les années 60, le petit pois.
1984.
Je doute.
La même année
ils
que Maxwell, ça n'est pas la peine d'en rajouter.
Populaire.
Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Et le ton, c'est bon. Et il y en a d'autres. Hein.
Ça marche aussi avec Numa, ce n'est pas la peine d'en rajouter.
Si tu veux tous ceux de l'année 1984, donc à mon avis, ça doit être les plus marquants. J'ai essayé de te les ressortir.
Il y avait buvez, pissez.
Éliminez.
Le premier, il disait carrément buvez, pissez. Et après, ça a été buvé.
Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit 1984, il y a des trucs qui ont l'air de sortis du fond des âges et d'autres qui font beaucoup plus modernes. 1984, il y en a une sacrée série, il y a pas un pas sans Bata. Aujourd'hui, on n'a plus de publicité pour les chaussures.
De toute façon, parce Bata, on n'a plus quasiment. André, c'était.
À part Geox.
Jean-Paul Good.
André, pourquoi.
C'était extraordinaire, les pubs André.
Eram. Pourquoi dépenser plus ouais.
Non, il faudrait être fou pour dépenser plus.
Vainé, c'est gonflé, ça vous paraît bon, pas si
vieux,
loin que ça.
C'est vieux, ça.
C'est 1984.
Voilà. Les années 80.
J'aurais mis plus vieux encore.
Naf-Naf, le grand méchant look.
Bah, Naf-Naf, c'est quand même récent. C'est
et
les années
elle
80,
est vire. L'envie du vrai. Je crois qu'on l'a encore, celui-là.
Ouais.
Ouais. Bah, 1984.
Oh,
il revient, celui-là.
On ne le voit plus directement.
Un meuble lévitant est garanti pour longtemps.
Ça, 1984. Il n'y a plus de meubles lévitants.
Non. Maintenant, c'est Ikea. Ranger. J'aime bien.
Donc voilà.
Bravo.
Et bravo. Ouais.
Non, mais comme
on
quoi.
On va pas
t'applaudir
parce qu'on a applaudi personne.
Oui, c'est vrai.
Oui, il faut pas faire de
Donc après, on va croire qu'il y a du favoritisme. Donc, un petit jingle qui lui va bien. Et nous passons à lui.
Quand tu vas prendre ta douche et que tu oublies ta serviette, tu trembleras de partout et petite sœur ta cliquette.
Voilà. Non, c'est Yann Beaujouin.
C'est toujours lui.
Oh, ça fait très VRP.
Oui, mais c'est très inspiré.
C'est ce qu'on chante quand on va prendre sa douche dans le jardin.
Donc maintenant...
Oui, nanani, nananay, R.E.
Numa. Qui n'a qu'un poème, pas de chronique.
Il est trop beau.
Non.
Non, pas loin.
Donc il faut que je me maigne pour faire l'enchaînement là.
Oui, il faut que tu sois prêt.
Ok.
Et méfie-toi, ça risque de tomber à plat.
Ah, c'est fini ?
Pas encore.
C'est pas encore commencé.
Ah non, je croyais que c'était ça.
Ça aurait pu.
Vas-y.
Il y a pire ailleurs, mais c'est ailleurs.
Bravo !
Oh oui !
Eh bien voilà, une magnifique émission.
Ah, qu'elle était bien,
Elle était bien.
Un sublime bordel.
Ah si.
C'est ça quand on travaille. Hein.
Le bordel qu'on appelle aussi l'extrémité de la partie substantatoire d'un avion. Oui, le bordel.
Mais ce qui me paraît primordial, c'est qu'on voit pas le travail.
Oui.
Ça fait beaucoup
c'est
plus
important.
Naturel et c'est très important.
C'est important.
Bah, ça, c'est
il faut jamais voir l'effort.
Non. Quand on travaille vraiment beaucoup, ça se voit pas.
Bah ouais.
C'est comme quand on fout rien.
Ça se voit pas non plus.
Donc en fait, il faut pas être moyen, faut être soit très bon, soit très mauvais.
Donc, c'est le problème de la société de consommation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, c'est que du service, donc finalement, on fait plus la différence.
Voilà, donc à vous de juger. Donc, comme d'habitude, on va remercier monsieur Yann Beaujouin qui a fait quelques-uns des magnifiques jingles qu'on a entendus ce soir. Merci. Enfin, que vous avez entendu ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, ça dépend à quelle heure vous écoutez, n'est-ce pas ?
Ouais. Mmh.
Oui.
Ouais, t'es pas obligé de meubler, hein ?
Non, je meuble pas du tout. On va essayer de refaire une émission au mois
préparée,
de
mai.
Réveiller l'émission.
Fin mai, début juin au pire.
Ouais, voilà, on va dire ça.
Voilà.
Ça va être le temps de voir venir.
Et surtout, sur l'été.
Puis comme ça, si ça foire, on pourra accuser la chaleur, etc. etc.
Les grands week-ends, il y en a plein là à venir.
Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire comment vous avez aimé ça.
Nous proposer des thèmes d'ailleurs,
nous
s'il y a des choses
thèmes, si ça
dont
vous intéresse.
Vous voulez qu'on parle.
Des tas de choses.
Moi je parle de tout. Hein.
Ouais. Il est capable de parler de tout.
Il n'y a aucun problème.
C'est à ça qu'on le reconnaît. Donc eh bien, au revoir.
Au revoir.
On va finir encore sur le tube de l'été.
Ah ouais, vivement l'été. Hein.
Voilà, au revoir.
T'invite à venir chez moi, je ne sais pas ce qui t'incite à me revenir comme ça. Je marche dans la rue près de toi, on prend un verre pour deux, puis il fait un peu froid. Je t'embrasse et rentre heureux, ça me fait du bien quand t'es là. Va savoir pourquoi, ça me fait longtemps déjà que je meurs sans toi. Ça me fait du bien quand tu viens, tu vois je ne t'oublie pas. C'était comment déjà, quand tu étais là. De temps en temps tu rends visite à tes amis d'autrefois, et je te vois et j'hésite à te serrer dans mes bras. Toi tu ne vieillis pas, t'es toujours comme avant, la souffrance en dedans, et moi qui l'air tout bas. Ça me fait du bien quand t'es là, va savoir pourquoi. Ça me fait longtemps déjà, et puis souviens-moi. Ça me fait du bien quand tu viens, tu vois je ne t'oublie pas. C'était comment déjà, quand tu étais là. Ça me fait du bien quand t'es là. Ça me fait du bien quand t'es là. Ça me fait du bien quand t'es là, va savoir pourquoi. Ça me fait longtemps déjà. Ça me fait du bien quand tu viens. Ça me fait du bien quand tu viens. Ça me fait du bien quand tu viens. Tu vois, je ne t'oublie pas. C'était comment déjà, quand tu viens.